Donc, merci de nous rejoindre cet après-midi pour cette deuxième partie de la journée politique d'innovation dans les territoires, organisée conjointement par les doctorants de l'Université de Poitiers et le groupe Créativité de l'IAAT. Je vais passer la parole tout de suite à Émilie pour qu'elle vous indique un petit peu quel est l'objectif de cet après-midi et nous introduire un peu les intervenants qui sont à la table avec moi. En vous disant que on aura besoin d'être rejoint tout à l'heure par une nouvelle personne. Il y a vous.
Donc bonjour à tous, en particulier à ceux qui n'étaient pas déjà là ce matin. Merci à ceux qui étaient et qui sont revenus cet après-midi. Donc comme vous l'avez constaté ce matin pour ceux qui étaient là, cette matinée était plutôt centrée autour des termes de l'innovation, de la géographie, des territoires, des réflexions qui se sont développées autour de ces termes, notamment en guise d'introduction, et puis quelques exemples concrets de créativité territoriale et de politique d'innovation dans différents espaces nous ont été présentés. Donc on a eu une présentation de Bertrand Piraudeau sur les activités récréatives et les sports de plage. On a eu d'autres espaces comme les espaces forestiers par Mohamed Tamni ou encore les paysages de l'agriculture biologique par Claudia Pietri. On a aussi eu une forte présentation de Laurent Petit, psychanalyste urbain à l'ANPU. Donc c'était aussi une autre vision de la créativité dans les territoires. Alors cet après-midi sera plutôt centré sur des exemples des politiques d'innovation dans les territoires, plutôt par des élus, des professionnels de l'aménagement du territoire, toujours dans l'objectif de créer des passerelles entre monde universitaire et monde des élus et des professionnels. Donc c'était bien ce qu'on avait en tête quand on a voulu organiser cette journée sur le thème de l'innovation. Et pour cela, donc, nous allons commencer par une présentation de Madame Béatrice Jouan, qui va nous présenter la Fondation Poitiers Université et ses missions. Donc assez rapidement, parce qu'elle doit partir, elle a un créneau assez serré, donc nous la remercions encore d'être venue ici. Et puis, dans cette table ronde, nous recevrons Monsieur Jean-Yves Pinault, qui est directeur du collectif Ville Campagne, Monsieur Fournier, Élise Macaire, qui est docteur en architecture, et Benoît Princet, qui est maire de Choupes, et qui tous vont nous montrer des exemples concrets de politiques d'innovation dans différents types de territoires. Donc je laisse la parole à Béatrice Jouan.
Oui, donc bonjour à tous. Je suis donc déléguée générale de la Fondation Poitiers Université. Donc quand un doctorant de l'université nous appelle pour nous demander de venir expliquer ce qu'on fait, on ne peut pas dire non, donc... C'est avec plaisir qu'on a répondu à leur invitation. Je ne sais pas si nous sommes exactement dans le fil du débat que vous allez mener cet après-midi, mais en tout cas dans les mots qui nous rassemblent, il y a certainement le mot d'élu, je vais vous expliquer pourquoi, d'entreprise, d'acteur et de territoire. Donc la Fondation Poitiers Université est une fondation universitaire qui a été créée en 2009, donc qui fête presque aujourd'hui ses 4 ans, et qui a été créée grâce... à la possibilité qui a été offerte par la loi LRU pour les universités de créer des fondations. Alors quand je dis grâce dans le milieu universitaire, je sais qu'il y a toujours des avis d'un sens et d'un autre sur l'opportunité d'avoir des fondations universitaires. Ce que je vais juste essayer dans les quelques minutes que je vais passer avec vous, c'est de vous montrer ce que nous faisons, à quoi elle sert, et potentiellement de vous convaincre de son utilité. Si vous en doutiez, j'ai un visage devant moi qui me semble douter, donc c'est très motivant pour essayer d'expliquer ce que nous faisons. Ce qui est en tout cas un point commun très direct avec ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est que la mission première de la Fondation est de renforcer les relations entre le monde universitaire et celui de son environnement dans son territoire, qu'il soit socio-économique. C'est notre premier objectif. Et le deuxième, c'est très concrètement aussi... et l'argent est parfois le nerf de la guerre, de collecter des fonds pour pouvoir mettre en place un certain nombre de programmes au profit des différents acteurs de la communauté universitaire. Et je vais vous expliquer quels sont les axes sur lesquels nous travaillons et ce que nous avons collecté et ce que nous en faisons. Donc, je vous disais, 4 ans d'activité, nous avons, dès la création, voulu quelque chose qui sans doute vous intéressera, c'est que les fondateurs de cette fondation, je suis désolée de la redondance, mais c'est quand même exactement comme ça que ça s'appelle, les fondateurs étant ceux qui, les premiers, ont décidé d'engager des fonds pour que la fondation puisse exister. Nous avons voulu que s'y retrouvent tous les acteurs du territoire et ne pas en faire simplement des fondateurs qui soient des entreprises, qui est le cas dans un certain nombre de fondations. Mais dans le cas de l'Université de Poitiers, nous avons voulu avoir aussi bien des collectivités territoriales que des entreprises, des grandes, des petites, des nationales, des locales, des syndicats professionnels, des particuliers. Et l'idée était d'essayer d'avoir autour de nous un panorama complet des acteurs du territoire pour tous travailler ensemble. Donc dans les fondateurs, vous allez trouver aussi bien les agglomérations de Poitiers, de Niort et d'Angoulême. Alors je rappelle souvent, quelqu'un me demandait tout à l'heure quels étaient les sites de l'université. L'université de Poitiers s'appelle l'université de Poitiers, mais travaille dans 3 des 4 départements de la région Poitou-Charentes, qui sont la Vienne, les Deux-Sèvres et la Charente. Sachant que sur la Charente-Maritime, comme vous le savez, il y a l'université de La Rochelle. Donc sur ces 3 territoires sont représentés au sein de nos fondateurs, puisque comme je vous le disais à l'instant, les 3 agglos y sont présentes, aussi les conseils généraux, la région, ça c'est pour la partie collectivité territoriale. Et nous avons des entreprises très diverses, beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, puisque à Niort, comme vous le savez, il y a beaucoup de mutuelles qui ont été partantes dans notre projet. Des entreprises internationales, comme par exemple Itron à Chasseneuil, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est une des entreprises qui travaille beaucoup à l'international et à l'export dans notre région. Donc les 5 axes que nous avons définis à la création et qui sont toujours en vigueur sont les suivants. Le premier, c'est le soutien à l'étudiant. L'objectif premier de la Fondation, c'est de collecter des fonds pour soutenir les étudiants. Alors vous allez peut-être me dire, c'est quoi soutenir les étudiants? Ben, c'est très divers. Ça peut être les soutenir dans le cadre, évidemment, de difficultés financières, c'est-à-dire qu'il y a des tas de programmes de bourses dans des circonstances différentes qui sont proposés aux étudiants pour les accompagner. Nous les accompagnons aussi dans la problématique qui nous intéresse beaucoup de la mobilité internationale. On sait que dans un cursus aujourd'hui pour un étudiant, c'est important d'avoir une expérience soit académique, soit de stage à l'étranger et que parfois il y a évidemment un frein économique pour mener ça à bien. Nous menons beaucoup d'actions, ça plaira à ma voisine de droite, en faveur des doctorants, puisque nous pensons aussi que souvent ils sont dans des situations où ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis nous soutenons un certain nombre d'actions, je dirais d'initiatives, qui sont menées par des étudiants, des associations d'étudiants, qui, pour tenter qu'elles rentrent dans les 5 axes que je vais vous définir, sont souvent soutenues par la Fondation. Le deuxième axe, c'est le rayonnement international. Là, ce que nous visons, et dans le jargon de l'université, on appelle ça la mobilité entrante et sortante, c'est-à-dire aussi bien, comme je l'indiquais à l'instant, que des étudiants de l'Université Poitiers puissent mener des expériences à l'étranger, c'est le cas aussi pour des enseignants-chercheurs, et que de la même manière, l'Université de Poitiers puisse accueillir des étudiants étrangers pour faire leurs études à Poitiers. Attractivité des territoires, peut-être c'est un sujet que vous aborderez dans l'après-midi, et puis aussi éventuellement donc des enseignants-chercheurs. Donc une mobilité des autres pays vers la France, enfin vers Poitiers, et dans l'autre sens. Le troisième thème, c'est celui que nous avons appelé les compétences. Là, il s'agit de travailler tous ensemble pour essayer d'augmenter toujours et toujours l'insertion professionnelle des jeunes. C'est formidable de faire des études supérieures. Il faut aussi que ça permette aux jeunes de construire leur vie et leur avenir. Donc nous avons un gros travail de collaboration pour essayer de faire en sorte que l'insertion professionnelle des jeunes soit optimale. Donc ça va à la fois sur des travaux de mise en contact sur certaines filières qui ont des débouchés importants et pour lesquels c'est bien de sensibiliser les jeunes aux ouvertures qu'offrent telle ou telle filière. C'est aussi de parfois travailler ensemble sur des maquettes de formation pour être sûr que ce qui est proposé puisse correspondre aux besoins. Et tout ça se fait, je le dis toujours, parce qu'il y a une suspicion parfois un peu de départ. Pour le vivre au quotidien, il n'y a pas de confusion des genres entre qui est responsable de la formation et qui peut apporter un regard constructif. Je n'ai jamais vu une entreprise vouloir se mêler de la mission, on va dire, de l'éducation supérieure. En revanche, ils apportent souvent un regard qui est constructif quand on réfléchit sur une formation. Le quatrième axe, nous l'avons appelé, il y a un mot qui est votre mot de cet après-midi, il s'appelle recherche, entrepreneuriat, innovation. Donc dans cet axe-là, nous soutenons des activités de recherche, évidemment, de l'université, Nous essayons aussi d'accompagner dans un certain nombre de dispositifs des étudiants, ça c'est le volet entrepreneuriat, qui veulent créer une activité professionnelle et nous essayons de les aider au maximum. Et sur ce qui concerne l'innovation, c'est des travaux qui peuvent être entrepris, soit auprès de doctorants, soit avec des laboratoires, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des projets innovants qui voient le jour. Et le cinquième axe, qui est plus transverse, comme il doit l'être à mon avis, qui est le développement durable, c'est-à-dire que dans l'ensemble de ses missions, la Fondation vise à avoir une préoccupation sur le développement durable, aussi bien à l'intérieur de l'établissement qu'à l'université, sur l'ensemble de ses sites, et aussi avec le monde extérieur. Donc voilà les cinq axes que nous avons définis à la création et sur lesquels nous nous appuyons. Pour vous donner un ordre de grandeur économique, ou quelques chiffres en tout cas, la Fondation a aujourd'hui 54 partenaires, donc fondateurs et donateurs. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'étaient les fondateurs, donc c'est, on va dire, le premier cercle, ceux qui ont permis que se crée la Fondation. Et bien sûr, notre mission au quotidien, c'est de continuer à aller chercher toujours des partenaires, collecter de l'argent. Donc ceux qui sont venus après ce premier cercle de fondateurs s'appellent les donateurs. Si ça ne les intéresse pas, j'en donnerai la plaquette à la fin, c'est pas grave.
Si ça les intéresse, nous étions en train de régler des questions logistiques d'horaire et d'emploi du temps.
Ça faisait une sorte d'écho. Et juste pour vous donner une information chiffrée, je ne sais pas si vous avez la moindre idée de... Dans la situation économique actuelle, quand on a commencé il y a 4 ans, c'était pas beaucoup plus facile. Aujourd'hui, nous avons collecté à peu près 2 millions d'euros. Je dis au nom de toute l'équipe de la Fondation, on en est relativement fiers parce qu'on trouve que c'est pas évident. C'est quand même ce qu'on appelle des actions d'intérêt général. Ceux qui donnent ne sont pas n'ont pas de retour sur l'investissement direct. C'est parce qu'ils y croient, parce qu'ils voient l'intérêt de l'ancrage de l'université dans son territoire. Et peut-être aussi parfois que nous leur proposons de monter ensemble des opérations qui font du sens ensemble dans l'intérêt collectif. Je vais peut-être pas vous parler de la gouvernance de la Fondation. Enfin, je veux dire, c'est important, mais en même temps, ça ne va pas vous éclairer beaucoup. S'il y en a que ce sujet intéresse particulièrement, nous avons bien sûr un site internet auquel vous pouvez accéder soit directement en tapant Fondation Poitiers Université, soit par le site même de l'université. Je voudrais peut-être juste finir et répondre à vos questions si vous en avez, mais peut-être vous donner quelques exemples très concrets de programmes qu'on a en cours pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Je vais essayer de vous en donner dans différents domaines. Dans le soutien à l'étudiant, je vais vous parler de notre dernier bébé qui date d'avant-hier, donc dont on est assez content parce qu'on trouve que c'est important. On a finalisé avec la Société Générale un programme qui s'appelle Bourse Handicap et qui a pour objet de pouvoir apporter des ressources aux étudiants en situation de handicap. Donc à la fois de les aider évidemment sur le plan financier en fonction de leurs besoins, mais ce que nous voulons faire aussi, c'est attirer l'attention des jeunes et notamment des lycéens sur le fait qu'il peut y avoir des études universitaires pour les jeunes en situation de handicap, qui ne s'interdisent pas tout de suite de se dire « c'est pas possible, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas ». Donc on a toujours derrière nos opérations financières une volonté de développer en fait une autre façon de voir les choses et d'essayer de faire avancer un certain nombre de thèmes, dont celui du handicap. Et ce que je n'ai peut-être pas précisé, parce que c'est évident pour moi, mais peut-être moins pour vous, c'est que tout ce que fait la Fondation Poitiers Université est évidemment en cohérence avec toute la politique de l'université. C'est-à-dire que la Fondation, elle est au service des actions de l'université. Donc sur le handicap, par exemple, nous travaillons main dans la main avec la mission handicap de l'université. Et la contribution que nous pouvons apporter, c'est de développer d'autres ressources pour aller plus loin et pour leur permettre d'accomplir leur mission. Donc dès la rentrée universitaire 2013, le programme a été, comme je vous le disais, lancé il y a 48 heures. Tout est sur notre site internet. Et les jeunes en situation de handicap, ou leurs parents parfois, parce que c'est eux qui vont voir l'information, peuvent demander des bourses pour la rentrée universitaire prochaine.
Un dernier exemple, s'il vous plaît.
D'accord. Lequel vais-je choisir ? Peut-être, comme vous travaillez sur l'innovation, je vais vous parler deux secondes d'un dispositif qui s'appelle Priminov. Je ne sais pas si les uns et les autres le connaissent, mais dont on est assez content aussi, qui est fait en partenariat avec les chambres de commerce et qui a pour objet de permettre, ce sera peut-être un lien avec votre débat tout à l'heure, de permettre à des PME, PMI, et je pense que vous savez que dans la Vienne, 90% des entreprises ont moins de 10 salariés, donc c'est vous dire la taille du tissu économique. C'est les chiffres qui m'ont été donnés par la Chambre de commerce. Alors je vois que vous avez l'air dubitatif, mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a même donné un chiffre un peu plus élevé, mais bon. N'ont pas les moyens, ni les moyens financiers, ni l'idée que c'est possible pour eux d'avoir un service de recherche et développement. Et le dispositif Priminov consiste à permettre à des étudiants en Master 2 d'aller travailler en R&D dans des PME avec un accompagnement non seulement financier, une fois encore, mais aussi avec le soutien sur le fond, j'ai envie de dire, des laboratoires avec lesquels ils travaillent dans le cadre de leur recherche. Donc ça permet à des entreprises de petite taille d'avoir peut-être un travail sur l'innovation qu'elles n'arriveraient pas à avoir avec leurs moyens propres. Donc comme l'heure est impartie pour vous comme pour moi, je vais juste répondre, si jamais il y en a, enfin comme vous voulez, à une ou deux questions. Sinon, je vais laisser une plaquette de la Fondation à Émilie, et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter en dehors de cette réunion.
Qui veut poser des questions ?
Juste une remarque, à travers à la fois l'atelier qu'on fait aujourd'hui, qui met en relation des universitaires et des professionnels ou des élus, est-ce que la Fondation s'est intéressée à ce qui pourrait s'appeler formation tout au long de la vie ou échange tout au long de la vie entre le cercle universitaire et le milieu professionnel ou public ou des élus ?
Non, mais...
Merci. Alors l'université, c'est très grand, hein. Je ne connais pas forcément tout. Ce qui me vient en vous écoutant, c'est que, en tout cas, nous travaillons bien sûr avec des collègues sur toutes les questions qui touchent à la formation continue. Donc la formation continue, c'est un des aspects de la formation tout au long de la vie. Nous avons des projets qui n'ont pas encore forcément été finalisés, mais avec l'université citoyenne aussi, de l'université de Poitiers, qui a pour objet d'ouvrir les portes du savoir à des citoyens de toutes sortes, je dirais, en tant que formation initiale. Donc il y a des projets comme cela. Nous avons monté quelques formations avec des entreprises aussi, je dirais, un peu sur mesure, où le savoir-faire de l'université intéresse aussi le monde économique. Et peut-être dernier exemple que je trouve aussi assez intéressant, c'est en sciences économiques. On a certaines banques partenaires qui nous demandent si la connaissance qu'ont les économistes de l'université ne pourrait pas être mise au profit d'administrateurs de certaines banques qui doivent prendre un certain nombre de décisions et qui n'ont toujours pas la formation idéale pour le faire. Donc je dirais que la transmission du savoir se fait dans les deux sens. C'est peut-être ça qui est intéressant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Eh bien, monsieur, oui.
Alors, c'est pas une question, c'est une confirmation. Dans le cadre d'une association qui s'appelle EG, pour ne pas faire de publicité, nous avions été missionnés par la Chambre de commerce pour faire les premières démarches de Priminov. Et j'avoue que nous avons été toujours très très bien reçus dans les entreprises pour leur expliquer, c'était le point de départ, et après nous passions le baigneur à la Chambre de commerce qui développait avec justement les étudiants et pour les sports.
Je vous souhaite une bonne après-midi. Alors, je vous laisse continuer. Et ceux d'entre vous, une fois encore, qui voudront en savoir plus, si c'est juste pour lire, vous allez sur le site. Si vous avez besoin de nous parler, vous nous trouverez à la Fondation. Bon après-midi.
Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Yves Pinault, du collectif Ville-Campagne, qui va nous présenter donc son intervention « Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques du développement territorial ».
Merci. Excusez-moi, j'ai cassé le micro. La Fondation va devoir financer le matériel. Non, pardon, excusez-moi. Pardon, désolé. Merci, Jackie. Donc, je m'appelle Jean-Yves Pinault, je suis directeur du collectif Ville-Campagne. C'est une structure nationale basée en Limousin, à Limoges pour être précis, qui a pour vocation depuis une quinzaine d'années à la fois à réfléchir sur ces questions de migration, notamment ces migrations ville-campagne, ces questions de développement local, de dire voilà en quoi ces migrations ou ces mouvements démographiques nous interpellent, en quoi elles révèlent des mutations de notre société et en quoi elles font enjeu de société. Et on s'est plutôt intéressé à cette question-là sous l'angle du développement territorial, ce que je préférerais moi appeler le développement local. J'aurai peut-être l'occasion de le dire dans les 9 minutes qui me restent. Mais en tout cas... Mais oui, voilà. Alors, parce que mon voisin animateur, pendant que la dame de la Fondation intervenait, essayait de raboter à partir des 20 minutes qui m'étaient allouées. Et moi, je n'avais compris que je n'avais que 10 minutes, Jackie. Donc, c'est la première fois qu'on essaye de raboter sur... Voilà, qui est en fait une augmentation. Donc, c'est formidable dans ces temps de crise et de restrictions. Je voulais le noter. Merci. Donc, ce collectif Ville-Campagne, qui existe depuis les années 95-96, en fait, c'est... d'emblée retrouver à la fois sur une nécessité de se rassembler, de rassembler des compétences, des organismes qui avaient à voir de près ou de loin à ces questions de parcours de mobilité des individus, de porteurs de projets, de développement local, de développement territorial, ce qui en a fait très vite une forme de plateforme qui mêlait de façon très éclectique à la fois des chercheurs, des enseignants, des professionnels du développement local, des collectivités territoriales, des fondations, des associations têtes de réseau, voilà une trentaine à peu près de membres fondateurs, avec comme souci et comme nécessité finalement de fabriquer du lien entre les disciplinarités, du lien entre les regards, voilà. Et comme dirait quelqu'un qui s'appelle Glissant, c'était vraiment l'idée de changer en échangeant ou d'échanger et donc de changer. Changer nos regards et changer nos pratiques, voire nos politiques, finalement au regard de ce que nous montrait la vie et cette complexité-là. Et je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un des enjeux très forts que nous souhaitons porter au niveau du collectif. Voilà, alors... mon côté, alors je suis praticien, je suis pas chercheur, ce qui forcément nous incite à réfléchir avant d'agir, comme disait Rimbaud. Mais en tout cas, l'idée un peu iconoclaste de reprendre le titre de cette journée me ferait dire, de manière peut-être un peu brute, mais un peu provocante, quoi, de dire voilà, politique d'innovation dans les territoires. Un politique, je ne sais plus ce que ça veut dire aujourd'hui. En tout cas, il me semble que c'est peut-être à réinventer, parce que ce que j'assiste à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau européen ou au niveau finalement territoire de proximité, c'est-à-dire le bloc commune, communauté de communes, j'assiste plutôt à des programmes de gestion, voire quand il s'agit de développement, plutôt des actions mis bout à bout qu'on appelle politique. Et pour moi, ça n'a jamais fait politique. Enfin bon, ça c'est une première remarque. La deuxième, innovation, il me semble qu'on est dans l'injonction, on est dans un effet de mode, tendance. L'innovation, c'est peut-être bon pour le business. Pour le reste, je ne sais pas. Et je me place sous la parole de Monsieur Briand qui concluait les travaux de ce matin. Puis le dernier, territoire. Moi, j'entends aussi encore dans cette France moderne d'aujourd'hui, décentralisée, depuis le grand-mère de Marseille, hein, Gaston Defferre, je ne vois que des territoires qui sont dans des limites, dans des périmètres administrés, juridiques. Je ne vois que des choses qui finalement sont à transgresser, puisque les Français, vous comme moi, nous traversons ces frontières au quotidien et avec joie et même sans rendre compte. Et pour autant, l'action publique et l'action publique territorialisée, comme son nom l'indique, elle s'opère dans ces frontières et dans ces petites frontières, on assiste à des petites guéguerres qui me fait dire que la France reste encore militarisée et féodale. Bon, voilà. Ceci dit, il me reste maintenant 6 minutes. Notre parti pris au niveau du collectif, ça a été avec des chercheurs, avec des enseignants, avec des praticiens, avec les gens eux-mêmes, de regarder un petit peu par rapport à leur mode de vie, qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient envie de bouger, qu'est-ce qui les rendait mobiles, qu'est-ce qui faisait qu'ils partaient d'un endroit pour arriver à un autre, et qu'est-ce que tout ça voulait nous dire. Donc on est plutôt parti sur ce qui nous semblait être nouveau à l'époque dans les années 95, une sorte de revival des années 70, c'est-à-dire ces migrations ville-campagne. Et on s'est aperçu avec des chercheurs, et la recherche est encore en cours, que tout ça peut être reposé aussi sur des nouveaux paradigmes, notamment ces questions de ressorts migratoires où on serait aujourd'hui plutôt sur des migrations sociales plutôt qu'économiques. Ce qui nous renvoyait à nos représentations, exode rural, etc., ces migrations économiques qui ont marqué les consciences et les inconsciences et qui ont marqué les politiques françaises, notamment depuis cette Troisième République qui a consacré, comme tout le monde le sait, la propriété foncière et qui est à remettre certainement aussi en question aujourd'hui si on est courageux devant les enjeux qui sont les nôtres. Alors en termes d'enjeux, évidemment, ces questions de migration, ces questions de démographie, ces questions d'attractivité territoriale, elles réinterrogent ou elles nous réinterrogent dans nos pratiques et dans nos politiques. Il nous semble qu'elles bousculent nos représentations. Ne serait-ce que les représentations un peu fondatrices de nos actions d'aménagement du territoire, etc. C'est-à-dire en gros la ville comme lieu d'émancipation et la campagne comme lieu d'arriération. Ces migrations-là remettent en question ces idées un peu clichées. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui beaucoup de gens nous disent que l'aventure elle est plutôt dans les petites villes ou à la campagne plutôt qu'en ville où c'est un lieu un peu ressenti comme tel, en tout cas, hein, un peu saturé, un peu pollué, un peu incivil, un peu compliqué, un peu stressant, etc. Donc 100 000 personnes arrivent dans les territoires ruraux chaque année. Ces 100 000 personnes, c'est très souvent, pas toujours, mais très souvent des mobilités choisies. Ces gens-là viennent des métropoles. Dès qu'ils ont un peu les moyens, les Français partent de ces métropoles. Et aujourd'hui, on est en train de faire une loi consacrant la métropole. La métropole étant finalement le dernier lieu de l'humanité, capable, ces villes-monde, de générer de la richesse tellement qu'elle ruisselle au niveau de ces métropoles pour aller irriguer les territoires ruraux. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Peut-être faudrait-il aussi qu'on nous le démontre, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, premier enjeu, changer nos représentations. Deuxième enjeu très fort au niveau du collectif et de manière à la fois concrète et symbolique, c'est la nécessité de recréer du lien. Il nous semble que ces mobilités nous parlent uniquement des femmes et des hommes qui vivent dans ce territoire. Et quand on parle de la femme, des femmes et des hommes, pardon, on touche à la vie, tout simplement, et la complexité de la vie. Et la complexité de la vie, il nous semble que c'est difficile de l'administrer, et en tout cas de la mettre dans des cases, et en tout cas de pouvoir gérer secteur par secteur ce qui fait à la fois l'organisation des vies et à la fois l'organisation des territoires. Bref, ça remet en cause complètement nos systèmes administratifs, et ça repose des questions très fortes, quelquefois très violentes, sur nos manières d'appréhender les problématiques telles que l'emploi, telles que l'industrie, telles que l'agriculture. Il nous semble qu'aujourd'hui, définitivement, tout ça fait système et qu'on est en incapacité, finalement, de produire dans nos cadres et nos actions et de reproduire cette complexité, et en tout cas, tenter de l'accompagner et de mieux l'accompagner. Donc, on casse des chaînes, on casse des liens. Et ces chaînons manquants, on y remet soit de la chimie, soit du business. Et c'est peut-être là, enfin c'est peut-être un sujet de thèse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Et il nous semble qu'aujourd'hui, et c'est vraiment un enjeu très fort du collectif Ville Campagne, c'est d'avoir une approche, de tenter d'être vraiment dans de l'expérimentation, tenter d'approcher le territoire comme un écosystème à construire et à relier aux autres territoires, aux autres écosystèmes. Il nous semble qu'il y a là un vrai enjeu d'avoir une approche écosystémique des territoires de manière ouverte et reliée. Et donc recréer du lien, ça nous semble être assez fondamental. On a des exemples très concrets, hein, qui donnent des résultats en France. Je pense notamment à la coopérative Sicacelli, appelée aujourd'hui les fermes de Figeac, qui ont une vingtaine d'années d'expérience. Donc c'est assez ancien pour pouvoir présenter une certaine crédibilité. Avec vraiment des choses très intéressantes. Ils remettent au goût du jour la nécessité de se relier les uns aux autres pour arriver à faire marcher, à faire sens. Et donc on est là dans une forme très concrète d'intelligence collective. Puis le dernier enjeu, c'est que par rapport à ce décalage, par rapport à ces nouveaux besoins relevés notamment par ces modes de vie et par les contraintes que sont ces méta-enjeux climatiques, démographiques, alimentaires, toutes ces petites crisounettes là qui nous agitent un peu, eh bien on s'aperçoit que l'action publique, elle est un peu aujourd'hui, si ce n'est congelée, un peu coincée, un peu figée. Alors pourquoi ? Tout simplement, me semble-t-il, c'est que c'est une proposition qu'on travaille au quotidien, tout ça, hein, avec le collectif. Hein. On a un centre de ressources, vous pouvez trouver tous nos travaux, c'est du concret. Le site, c'est installation-campagne.fr, bref. Donc cette action publique, elle semble être là aussi à reprendre du souffle, reprendre du corps et peut-être reprendre du sens. Et notamment dans action publique, nous souhaitons entendre le mot public sans tomber dans de la démagogie, mais il nous semble qu'aujourd'hui l'action publique, elle se fabrique sans le public. Et c'est un petit peu dommage. Et donc on voit apparaître ici et là de nouveaux acteurs ou des acteurs qui ont été présents mais jamais activés, que sont les populations, etc. Et on est bien dans un enjeu très fort de refaire travailler ensemble trois sphères. La sphère du pouvoir légitimé, notre démocratie, etc. La sphère des experts, et dans laquelle j'y mettrai volontiers les chercheurs, la sphère des usagers qui ont aussi une légitimité d'expertise d'usage et qui nous semble là être mis en exergue avec des expérimentations menées par la 27e région, avec aujourd'hui ce qui apparaît comme étant très, très, très à la mode, le design des politiques publiques. Voilà. Pour notre compte, on est en train de travailler sur une plateforme acteurs-chercheurs, à l'occasion d'un dispositif porté par le ministère de l'écologie, qui s'appelle REPER, et qui s'inscrit fortement dans ce dialogue science-nature-société. On souhaiterait créer une plateforme de recherche. La Caisse des dépôts risque de nous donner un petit peu d'argent pour réfléchir à comment on fait enfin ressortir les chercheurs des laboratoires pour leur permettre d'être sur le terrain aux côtés des acteurs. Deux, au niveau des acteurs, d'avoir moins peur des chercheurs et réfléchir ensemble très en amont à ce qui fait question aujourd'hui et qui reste peut-être en zone d'ombre, et à permettre justement à des étudiants, des doctorants, des thésards d'être sur du long terme et de la familiarité entre acteurs et chercheurs. Et puis le dernier point, mais ça c'est Michel qui va mieux en parler que moi, c'est qu'il nous semble qu'aujourd'hui, comme disait plutôt Frank Zappa, que vous connaissez, il disait il n'y a pas de progrès si on ne transgresse pas la norme. Voilà. Et il me semble que l'affaire qui vient, c'est vraiment une affaire de transgression, d'expérimentation et en gros d'un collectif qui ose. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Pinault. Alors, on est ravis d'avoir des gens qui montent des collectifs. Avec les chercheurs et avec des usagers, l'espace Mendès France est un lieu où ce type de dynamique se met en place régulièrement et où un groupe de travail depuis une dizaine d'années est déjà actif sur ces questions-là. Donc il y a peut-être des passerelles et des choses à faire ensemble. On va demander à Michel Fournier de nous rejoindre et on va lui passer la parole. Maire de la commune des Voivres, c'est comme ça qu'on dit ? Je n'ai pas tout à fait. C'est... Voilà, il va falloir que vous me corrigiez. De les voir. On vous donne royalement une vingtaine de minutes.
Enfin, ça, on verra. Bonjour à toutes.
Je vois que j'ai fait un vrai
tous. Merci de votre invitation. Tu as déjà introduit les choses, n'est-ce pas, un peu. Donc, je vais me présenter, parce que c'est quand même plus simple de se présenter pour situer un peu l'action qui a été menée au sein de cette commune. Donc, je m'appelle Michel Fournier, je suis maire d'une commune de maintenant 350 habitants, dans le rural profond des Vosges, oui, assez éloigné de chez vous. Et commune qui se trouve à l'extrémité, c'est très important de le souligner, à l'extrémité du département des Vosges, à l'extrémité de la région Lorraine, à l'extrémité de tout. Donc, on n'est rien. 30 km d'Épinal, dans un canton ou une communauté de communes à l'heure actuelle de 5000 et quelques habitants, 5200 habitants, sans activité économique forte classique, puisque le premier employeur étant un lycée professionnel avec 70 personnes. Le deuxième, c'est un IME. Le troisième, ça doit être la station thermale de Bains-les-Bains avec du saisonnier, une cinquantaine de personnes. Et le quatrième employeur étant ma commune avec 25 personnes pour 350 habitants. Donc vous voyez, déjà, ça situe un peu les choses. Est-ce que je voulais... J'ai quelques messages à vous faire passer, tout en vous racontant mon histoire, puisque c'est ça que vous attendez. Hein. Je suis aussi, moi, chercheur, mais essentiellement chercheur de vie. Pour moi, ça me semble important. Et la vie, au départ, eh bien, c'est quand même les enfants. Ce qui fait que le lien est facile à faire, puisque cette histoire de la commune, elle commence pas, bien entendu, à l'avènement du maire Michel Fournier, pas du tout, mais quand même. Je suis élu depuis 89. Donc vous voyez, je suis déjà un vieux. Et à cette époque, on m'indique très simplement que bien l'école du village, qui comprenait 9 enfants, eh bien devait être fermée. Et donc le problème récurrent des communes rurales, c'est souvent au départ le premier problème ou les premières questions posées sont liées souvent à l'école. Et effectivement, il y avait toutes les raisons de fermer une classe unique avec 9 élèves. Sauf que ma nature fait que j'ai du mal d'accepter les contraintes. Et donc, là, je pense que la première des choses, ça a été d'analyser la situation et de se dire, eh bien, finalement, si c'est un problème d'effectifs, eh bien, il suffit d'augmenter ces effectifs. Alors, il y avait deux solutions, ou faire des enfants dans la foulée, bon, ça, on a quelques limites, ou alors faire venir des enfants de l'extérieur. Les enfants viennent avec des familles, forcément. Les familles, il faut savoir les accueillir ou pouvoir les accueillir. Donc, on a tout simplement demandé, par le biais de médias, à des familles de venir s'installer dans notre secteur. Et qu'est-ce que l'on pouvait leur offrir, puisqu'il n'y avait pas d'activité ni d'emploi? On pouvait leur offrir des conditions de logement assez particulières. Assez particulières dans la mesure où la commune ne possédait aucune structure, enfin aucune maison. Ce sont des anciennes fermes. On est dans un village, un habitat dispersé. Très belle maison, authentique, mais pratiquement, j'allais dire, pas forcément tout en ruine, mais bien endommagé. Des enveloppes, anciennes fermes, qui n'avaient plus d'utilité. Donc la première étape, ça a été que la commune décide les propriétaires à vendre ces enveloppes. Première étape, décider dans le milieu rural à vendre le bien qui appartenait à, où je mets une vieille remorque, mais c'était ma grand-mère qui était née, etc., etc. Bon, bref, il a déjà fallu convaincre. Ensuite, il a fallu, bien pour pouvoir accueillir et puis transformer ces maisons en habitation et accueillir les familles potentielles, et bien les rénover. Et pour que ça soit attractif, l'idée a été de mettre en place un système qui a été repris par la suite, que l'on peut appeler du Borloo avant Borloo, c'est-à-dire de dire, si vous venez, on vous mettra dans des conditions telles que vous serez propriétaire de votre maison à partir de votre premier mois de location. Je m'explique, on a créé des contrats particuliers, alors je vais aller assez vite là maintenant, qui n'existaient pas dans le juridique traditionnel entre la location-vente, l'accession, le crédit bail, enfin le bail traditionnel. Ça veut dire qu'à partir de l'instant où la famille payait son premier loyer, ceci venait en déduction de la maison qui avait été rachetée par la commune, qui avait emprunté pour acheter, qui refaisait une partie à la carte. Autrement dit, vous avez 3 enfants, vous m'intéressez forcément, voilà, qu'est-ce que vous savez faire? Ah bon, ben moi, je vais m'occuper de telle ou telle partie. Bon, ben toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça, etc., etc. Ce qui fait que les gens se sentaient non pas dans une situation de locataire potentiel, mais de propriétaire à terme, bien entendu, de leur habitation. Et là, on s'est aperçu que les familles qui ont répondu, c'était forcément des familles nombreuses, et c'était forcément dans notre secteur des familles sans aucun avenir professionnel. Ce qui veut dire qu'on a conjugué la difficulté d'accepter des gens qui ne venaient pas du tout de notre secteur et qui avaient des problèmes sociaux assez forts. Et il a fallu effectivement l'intégrer dans le milieu rural qui, comme vous le savez, pour certains, s'il y en a qui y vivent, est assez traditionnel dans sa conception de l'autre. On va dire ça comme ça. Donc finalement, la première année, 2 familles ont répondu à notre appel. 6 enfants et 5, 11, 11 et 9, 20. Boum, l'école a été sauvée. L'école sauvée, très bien. Seulement, les demandes ont continué à s'inscrire. Et finalement, l'année suivante, nous avions un peu plus de 30 élèves potentiels, ce qui fait que l'on a ouvert Il en a créé une maternelle. Et l'année suivante, nous avions une cinquantaine d'enfants potentiels, donc on a ouvert une troisième classe. Alors, ça ne s'est pas passé simplement avec le système que vous pouvez imaginer. Hein. Je crois que l'éducation nationale, la grande maison, a des habitudes, et cette grande maison accepte difficilement, souvent pour des problèmes budgétaires d'ailleurs, de se remettre en question. Quand il y a un apport, c'est plus facile de fermer une classe que d'en créer. Donc il a fallu une bagarre assez forte à ce niveau-là, mais on a réussi notre pari. Et en 3 ans, on est allé au-delà d'ailleurs. Ce qui fait que, bien entendu, les médias locaux, voire nationaux, ont pris le relais. Et à un moment donné, j'avais à peu près 300 demandes de familles à gérer, avec des gens qui sont arrivés. J'ai une famille qui est arrivée un samedi matin de Perpignan, avec la voiture, la caravane, les enfants, le mobilier et tout. On vient chez vous, on a vu une émission, truc, on vient s'installer. On a toujours essayé de trouver des solutions, mais c'est pas forcément facile à gérer. Autrement dit, accueil. Et donc forcément, on n'y avait pas réfléchi à tout cela. Créer une politique d'accueil, et ça c'est très important pour continuer à avoir du lien. Ce qui fait que notre mairie, notre petite mairie de village, qui ne comptait que 200 habitants à cette époque-là, eh bien, la secrétaire de mairie, il a fallu ouvrir la mairie tous les jours. Il a fallu, il a fallu une présence quotidienne, parce que les problèmes, les gens venaient avec leurs rêves d'installation, mais ils venaient aussi avec leurs problèmes et leurs difficultés. Donc il a fallu tout régler. Et comment on a pu aussi entreprendre tous ces travaux, puisqu'on avait des moyens financiers très limités? Eh bien, on est en 90, hein. Certains d'entre vous étaient nés, peut-être, non? Oui. Souvenez-vous, 90, il y avait déjà une crise du bâtiment et une crise du logement, etc., et surtout dans le milieu rural. Et donc, cette crise engendrait des gens sans emploi, mais qui avaient une culture du travail. Et donc, ça a été les premiers contrats CES. Je ne sais pas si pour certains, ça dit quelque chose. Ces contrats emploi solidarité, on a été les premiers dans le département à signer ces contrats emploi solidarité. En fait, j'ai embauché 25 personnes en 2 jours pour pouvoir créer, sous forme de chantier d'insertion, la réhabilitation de cette maison. Et j'ai forcément associé les personnes qui venaient étrangères du village, qui n'avaient pas de travail. On les a également mis Donc tout le monde participait, c'était une vraie ruche vivante. Les bénévoles également se sont mis dans l'histoire. Et ce qui fait qu'on a pu tenir ces engagements et arriver à ce résultat. Nous avons eu jusque 70 élèves scolarisés. Donc ça veut dire que nous avons touché aussi à l'insertion. Et l'insertion, je suis toujours chantier d'insertion permanent. Je suis dans un dispositif que l'on appelle IAE, insertion par l'activité économique. Je suis la seule commune, entre guillemets, référencée en tant que commune, parce que souvent ce sont des associations, la plupart des temps, voire des collectivités plus larges, communautés de communes ou autres, qui organisent ce genre de structure. Mais moi, je suis encore commune. J'ai 2 encadrants à l'heure actuelle et j'ai un contrat avec l'État et le Conseil général de 14 personnes en permanence, par rapport à ces chantiers. Alors ça, c'est la première étape. Mais cette étape s'est déroulée, je vous l'ai dit, dans les années 90, 91, 92, 93. Et parallèlement à cela, bien, on a eu forcément une image médiatique forte, une image positive, une image un petit peu, comment dirais-je, originale. Ce qui fait que, quand c'est comme cela... Cette image nous a permis d'avoir des contacts et, par exemple, une entreprise, il n'y avait jamais d'entreprise chez nous, hein, une entreprise est venue me voir en me disant « tu pourrais pas me trouver une solution par rapport à « j'ai un problème de... » Et on a créé une zone d'activité, ce qui a fait rire beaucoup de voisins, forcément. C'était un pré à vache, hein, tout simplement. Hein, et finalement, bien maintenant, il y a quand même 3 entreprises qui sont installées. C'est devenu la zone d'activité de la communauté de communes. Vous voyez, les choses s'arrangent, comme on dit. Et donc, il y a eu tout cet aspect-là. Et puis, bien entendu, ça a créé donc de l'emploi. Par un moment donné, sur la commune, eh bien, je vous dis, ça faisait à peu près, en dehors de la commune en tant qu'entité, on a créé à peu près 30-35 emplois avec l'aide de la collectivité en tant que telle pour faciliter, pour faire de nombreuses démarches et pour faire créer ce lien également intra-entreprise. Et inter-entreprise également. Et puis en 94, fin 94, nous sommes, je vous l'ai dit, on est dans ce qu'on appelle la Vosges, V-O-G-E, avec un petit chapeau sur le haut. Et c'est un lieu où il y a beaucoup d'étangs, beaucoup de forêts, mais encore une fois, pas d'économie. Mais par contre, ces étangs ont servi à un moment donné, à un autre siècle, pour des forges, pour des différentes activités. Et donc, c'était des réserves d'eau qui permettaient à la motricité de fonctionner par système de roues, etc. Et là, on est venu me dire qu'un de ces étangs, qui était très ancien, datait du XVIe siècle, était à céder par un propriétaire. Il était en friche. Et finalement, j'ai dit oui, ok, on va acheter ça. Mais on va pas acheter ça pour se dire on va acheter un plan d'eau, pour avoir un plan d'eau. Il faut qu'on réfléchisse à créer une action sur ce plan d'eau. Alors, la difficulté, c'est qu'on n'avait pas d'idée. Ça, c'est déjà emmerdant au départ. Et la deuxième, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Ça, c'est encore plus gênant. Alors, bon, il a fallu résoudre ces deux problèmes. Le premier, c'est bien forcément l'argent. Et puis, surtout, on ne va pas chercher des financements si on n'a pas une idée forte. Alors, l'idée forte, on est dans les années 95. L'élection municipale, le renouvellement avait lieu en 95. Donc, il faut aussi se mettre dans un contexte électoral fort par rapport à des investissements déjà forts. Je vous donnerai le détail tout à l'heure de l'endettement de la commune. À votre bon cœur. Ça a été ça, à votre bon cœur. Mesdames, messieurs, je vous propose un projet de développement de votre territoire. Ce projet, il est quoi? Il est basé, on va créer une structure, un centre d'éducation à l'environnement, et on va créer sur cet étang une pisciculture pédagogique de manière à faire une ferme pédagogique piscicole sur le site lui-même. Et pour cela, nous aurons forcément besoin d'une structure d'accueil. Donc d'un côté, je rachète l'étang, je rachète des superficies autour, mais je rachète tout un bâti pour pouvoir faire de l'accueil et créer ce que l'on a appelé, en fonction des dossiers, un hôtel rural. Mais j'ai pas les moyens. Il y a deux solutions. Bon, vous payez votre impôt, c'est bien, mais vous allez payer autre chose. Vous allez vous engager dans une société civile immobilière. On va faire une société civile immobilière communale. Je vous demande des parts sociales. Vous pouvez en prendre une, deux, dix. Traduit à l'heure actuelle 225 euros la part pour que ça soit accessible. Et on a réuni comme ça 117 personnes de la commune, du territoire autour, et on a réuni un capital à peu près de 100 000 euros qui nous a permis de faire l'achat du foncier. Et le deal, c'était quoi? C'était de dire, vous avez permis cet achat du foncier, maintenant vous le transférez à la commune avec un bail emphytéotique de 35 ans, c'est-à-dire un bail de longue durée. La commune détient un réel droit de propriété pendant cette durée-là, et elle donc peut demander des financements à l'État, au Conseil général, à la région, à l'Europe, de manière à pouvoir créer cet hôtel rural qui comprend 60 lits, avec toute chambre individuelle, cabine de douche, etc. Enfin, quelque chose de très intéressant. Et puis de créer cette pisciculture au niveau du site étant l'allemand. Alors, bien entendu, les choses ne se font pas d'une façon simple. Les financeurs n'ont pas trop l'habitude de soutenir des actions qui sont hors cadre. Vous avez parlé de cadre tout à l'heure. Oui, j'ai plus que 5 minutes, ben on verra. Et c'est pas vrai. Hein. Et donc, depuis maintenant 98, les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent tellement que le centre d'éducation de l'environnement, c'est 6 emplois permanents. La maison d'accueil, c'est 2 ou 3 emplois en fonction de la durée, puisque que ça soit le centre d'éducation ou la maison d'accueil, c'est une gestion privée. C'est-à-dire que la commune a transformé le bâti en outil de travail, et l'outil de travail est cédé à des professionnels qui font l'un de l'accueil et l'autre de l'éducation à l'environnement. D'accord ? Un sous forme associative et l'autre sous forme traditionnelle, entreprise. Et ce qui fait comme ça que l'activité a continué à se développer, et forcément les choses se sont enclenchées. Vous savez, une fois que vous démarrez, c'est continu. Et donc l'hôtel, l'ancien hôtel-restaurant du village qui existait en parallèle d'ailleurs, et qui a pris feu, un incendie s'est déclaré. On a repris cet hôtel-restaurant. Aujourd'hui, on a transformé la partie hôtel en logements sociaux. J'ai 27 logements sociaux dans la commune. Je dois posséder, je dis je, vous voyez, on s'identifie à sa commune. Je ne sais plus d'ailleurs combien j'ai de maisons. peut-être un tiers du village. Enfin, c'est pas grave. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il y a qu'il y a de la vie. Que le restaurant, maintenant, c'est 7 emplois. C'est à peu près 80 couverts tous les jours. Ça fonctionne très, très bien. Les choses travaillent en partenariat. Et puis, bien, on a continué. On a continué. On a fait d'autres démarches pour pouvoir, bien, en fonction des demandes, en fonction des problèmes posés, faire de l'accueil pour le centre d'éducation. On a construit différentes choses. On a, par exemple, on a construit un camp d'ados. On parle développement durable, hein. Mais il se trouve que dans notre secteur, on voyait passer énormément de palettes vides, là. Et donc, on a construit un village en palettes. Avec de la récup, on a eu du mal de se faire agréer par Jeunesse Espoir. Hein. Parce que ça, ils ne savaient pas. Ça n'avait jamais existé, ce n'était pas dans les tuyaux. Alors, quand tu n'es pas dans les tuyaux, hein, je passe tout cela. Mais enfin, ça fonctionne et c'est très utilisé. On a créé également un abri, 300 mètres carrés. On a créé différentes choses comme ça et on continue à le faire. Et pour terminer, puisque j'ai plus que 2 minutes maintenant, on a imaginé un autre projet en partenariat avec le pays d'Épinal, cœur des Vosges. Donc ce projet, bien c'est celui, alors peut-être qu'il vous parlera un peu plus, c'est celui de réaliser dans une ferme que l'on a rachetée à proximité de l'étang, on est propriétaire maintenant de tout le secteur, et bien c'est de réaliser... une couveuse d'entreprise. Et cette couveuse d'entreprise vient d'obtenir, enfin, il y a un an maintenant, on a obtenu un PER, un pôle d'excellence rurale, sur lequel, donc, on est aidé par l'État et d'autres collectivités. C'est un investissement d'1 500 000 euros. Le premier projet, c'était déjà 1 500 000. Ce qui fait que, on s'est aperçu que la compétence économique, puisqu'on est dans l'économie directe, on l'a plus maintenant puisqu'on est en communauté de communes. Bon, c'est pas trop mal parce que je suis président de la communauté de communes, donc il y a eu un transfert douloureux pour convaincre les autres élus. C'est pas facile. J'ai encore une réunion hier soir, je vais autant vous dire qu'il y aura du sport encore la semaine prochaine. Mais toujours est-il que voilà. Je voudrais simplement vous démontrer, ou si besoin est, que finalement, quand on a envie, quand on veut, quand on est tenace, parce qu'il faut être très tenace, il faut être très ouvert, il faut être à moitié fou, et là, après, vous comprenez que la réalité s'impose et que finalement, les choses peuvent se faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes une référence au niveau local, et peut-être plus que local, pour dire que même à l'échelle, même à la taille d'une commune, d'une collectivité seule, on peut développer des actions qui engendrent forcément du lien social, puisque les chantiers continuent à exister. Et c'est aujourd'hui, tiens, ce sont des Bretons, un couple de Bretons, de jeunes Bretons qui ont débarqué dans le village il y a 6 mois pour me dire on a un projet, il paraît que chez vous, on accueille tous les projets. C'est quoi ton projet ? Une demi-heure après, ils étaient installés. On avait racheté une ancienne discothèque qui avait brûlé. Décidément, tout brûle à un moment donné. C'était en moitié en ruine. Je leur ai dit, ben voilà le deal. Je vous prends dans le chantier. Vous construisez votre entreprise. Vous refaites cette discothèque. Et si vous réussissez, si vous avez les tripes, eh bien voilà, ça sera mis à votre disposition. Aujourd'hui, ils sont constructeurs de yourtes en hêtre, puisque la valorisation, c'est le hêtre. Et leur entreprise vient de se créer, et ce sont des Bretons. Vous voyez comme quoi on peut accueillir des gens de l'extra-France. Voilà, ça va ?
Très bien. Merci beaucoup. Une petite précision, pour être maire chez vous, il faut être maître d'œuvre, architecte, maçon
Juriste. Juriste aussi. Juriste, oui. Si vous permettez, quand même, je vais vous donner quand même l'endettement de la commune par habitant, puisque j'ai le truc là depuis. Parce que vous savez, chaque préfet qui se succède, leur premier travail, c'est de dire, on leur précise. Vous savez, il y a une commune qui est un petit peu particulière. Donc, on me dit, vous avez des budgets difficiles, hein, très très difficiles. Mais j'ai 1343 euros d'endettement par habitant. La moyenne nationale est de 479. Donc, vous voyez, par rapport à la taille de ma commune. Aujourd'hui, je suis à 461 000, etc. Alors, sans le dernier emprunt, là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, tout simplement, on n'a jamais compris qu'un endettement, c'est un mot. En fait, on a des recettes, puisque tous les logements, etc., viennent... Donc, en fait, ce sont des opérations blanches. Simplement, le risque, il est... Voilà, c'est un encours, c'est pas forcément un endettement. Et ça aussi, c'est pas facile à faire comprendre. Voilà.
Merci beaucoup, Michel Fournier. On va passer la parole à Élise Macaire, architecte, docteur en architecture et chargée de recherche sur la question de la démocratie culturelle et de la transformation du cadre de vie. Un vrai, vrai, vrai projet aussi. Élise, c'est à vous.
Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée. Alors, mon intervention s'intitule « Démocratie culturelle et transformation du cadre de vie ». Donc, je vais vous parler effectivement de ce sujet-là, qui est un peu un sujet que j'ai travaillé dans le cadre d'une thèse de doctorat en architecture. Alors, je suis membre d'un laboratoire de recherche qui est dans une école d'architecture. Donc, je suis très contente de participer à une journée d'études comme celle-ci qui est organisée par l'université, parce que les écoles d'architecture ne sont pas à l'université et ce n'est pas sans poser problème. Donc la rencontre avec les géographes est aussi un moment privilégié pour moi. Et voilà, je suis aussi responsable d'une association qui s'appelle Didatica et qui se préoccupe de la démocratisation de l'architecture. Donc, en fait, mes travaux de recherche sont à la jonction entre une réflexion sur l'évolution des pratiques de travail dans le milieu de l'architecture et de l'urbanisme, et aussi cette question de la démocratisation. Alors, voilà. Alors, en fait, depuis les années 90, on voit que un mouvement se structure au sein du milieu de l'art. Et notamment, différents courants artistiques se préoccupent de plus en plus de la question de la ville. Alors, il y a les arts de la rue, dont la NPU est plus ou moins... il y a des liens, certainement, avec les arts de la rue. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les nouveaux territoires de l'art, donc avec l'occupation des friches, où les artistes réinvestissent un petit peu des espaces et les habitent. Donc les territoires deviennent des territoires d'expression, des lieux d'expression, et ils constituent en quelque sorte une forme d'interface entre l'art et la société. C'est-à-dire que les artistes voient un petit peu dans l'espace le moyen aussi de se rapprocher des publics. Alors, moi, je suis issue du milieu de l'architecture, et il se trouve que chez les architectes, il y a des gens qui développent des pratiques qui ont à voir avec celles des artistes et qui cherchent aussi à faire évoluer leurs pratiques pour aller au-devant des populations, pour les rencontrer, et donc développent des démarches qu'on appelle participatives. Alors, du coup, moi, ce qui m'a un petit peu interpellée dans le cadre de mon travail de recherche, c'est que il y a une vision, une représentation de la démocratie, en fait, qui est au travail. Et c'est ce que j'ai appelé la démocratie culturelle ici. Alors, la démocratie culturelle est quelque chose qui est, qui n'est pas propre à mes travaux de recherche. Il y a aujourd'hui tout un tas de travaux, notamment réalisés dans le cadre d'un programme interministériel culture et ministère de l'écologie sur la culture en ville. L'idée est de montrer qu'il existe de nouveaux rapports qui se nouent entre la culture et la démocratie, à travers notamment la revalorisation des pratiques amateurs. Donc, comme vous le savez, la culture en France est problématique dans le sens où elle a souvent été conçue comme quelque chose relevant de l'élite. Alors, je reviendrai un petit peu sur cette question-là. Alors, tout d'abord, le rapport entre... Je vais revenir un petit peu sur cette question du rapport entre les artistes et la ville. Je vais vous parler un petit peu après de l'éducation populaire, de la place de l'éducation populaire et son rapport avec l'architecture. Et enfin, j'évoquerai la question de la participation des habitants, hein, comment toutes ces choses-là se combinent pour remettre au travail la démocratie culturelle. Et enfin, je terminerai par mon intervention, puisqu'il s'agit de parler de cas concrets, si j'ai bien compris, par des exemples, en fait, pour illustrer un petit peu ce propos et vous montrer comment justement les pratiques évoluent dans ce contexte-là. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, les artistes aujourd'hui proposent de nouvelles réponses à cette question de la démocratisation de la culture en cherchant à se rapprocher de la ville et ses quartiers. Donc, ils développent des démarches d'interaction avec le public, souvent en intervenant directement dans l'espace public, en y menant des performances, des installations. Alors, il y a aussi les nouveaux territoires de l'art, c'est-à-dire que les artistes ouvrent des lieux au public, hein, et les font découvrir, en révèlent en quelque sorte la poétique. Donc voilà, il y a un ensemble d'événements qui se produisent, qui permettent la rencontre entre les artistes et le public dans le cadre spécifique de la ville, mais on pourrait dire des territoires, parce qu'on sait très bien qu'aussi aujourd'hui il existe par exemple les arts du chemin, donc voilà, qui mettent en rapport aussi, où la problématique se pose de la même façon. Alors, donc, comme je l'ai évoqué, la ville devient du coup un espace d'expression, mais aussi réinvesti comme un lieu à réinventer. Alors, ça remonte évidemment aux années 60, hein, avec le happening, la performance, les premières expériences de théâtre radical, le développement des festivals, etc. Donc voilà, ça, ce n'est pas non plus nouveau, mais quand même une forme de culture alternative semble se mettre en route. Alors là, j'emprunte le terme à Fabrice Raffin, qui a travaillé sur les friches artistiques. Alors souvent dans les expériences, et la NPU montre bien cette préoccupation-là, on interroge par exemple la mémoire du territoire, hein, ce qui en fait aussi son patrimoine, etc. On s'interroge sur la culture propre au territoire. Alors finalement, et c'est ce qui m'a intéressée, voilà, les artistes se présentent en quelque sorte comme de nouveaux acteurs qui se saisissent du projet de la ville. Hein, donc voilà, on n'a plus seulement des architectes, des urbanistes. Enfin voilà, aujourd'hui, dans les gens qui vraiment ont des choses à proposer, les artistes se sont positionnés comme des gens en capacité, on va dire. Alors, ce projet de ville, néanmoins, il est intimement articulé à un projet de vie. Et c'est pour ça que la question des friches artistiques est très intéressante, parce que les artistes montrent à travers ces occupations qu'il s'agit de développer une activité, mais aussi de réfléchir sur comment on vit et ce que c'est que habiter un territoire. Et donc, ils invitent les autres habitants à réfléchir justement sur ce que c'est que habiter et être citoyen. Et ça a mené finalement ce type d'expérience, ça a mené un petit peu les collectivités aussi à inviter des collectifs d'artistes à venir accompagner des projets urbains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes ont été une force de proposition, mais les collectivités ont compris finalement l'intérêt qu'elles pouvaient elles aussi tirer de ces pratiques, et donc invite les artistes à venir participer à la réflexion autour du projet urbain. Et souvent, ça s'articule autour de la participation des habitants, mais je vais revenir là-dessus. Alors pourquoi ? Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'éducation populaire, parce qu'il me semble que c'est dans l'histoire de la culture en France un point épineux à regarder. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, l'histoire du ministère de la Culture, c'est celle de l'histoire de la séparation entre la culture qui serait celle des artistes et la culture de ceux qui ne seraient pas artistes et qui seraient plutôt, qui ont plutôt été regroupés au sein du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation populaire, où là, les pratiques amateurs ont été concentrées. Donc sur le plan politique, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 50 et il y a une séparation qui a été opérée. Alors, l'éducation populaire s'est finalement retrouvée marginalisée de la culture et donc c'est ce qui a mené au développement du secteur socio-culturel. Alors cependant, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se développent au sein de l'éducation populaire et notamment l'éducation à l'environnement urbain. Et là... un certain nombre d'associations s'organisent et à partir d'un intérêt qui était au départ celui de la nature, développent aussi un intérêt pour la ville et l'environnement. Alors des programmes de sensibilisation se développent et un mouvement notamment poussé par le développement durable se renforce aussi au cours des années 90. Alors apparaissent aussi, et le Conseil de développement du Grand Poitiers a organisé un jour une soirée autour du thème des villes éducatrices. Donc là aussi, en quelque sorte, il y a la prise de conscience que les villes et les territoires contribuent à l'éducation de tout un chacun. Alors enfin, dernier point qui est le dernier, je dirais, il y a trois pieds, l'art, l'éducation et puis la démocratie. Donc c'est la question de la participation des habitants. Alors la participation des habitants aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans les politiques publiques. Cependant, c'est quelque chose qui n'est pas complètement nouveau. Et la thématique est apparue notamment dans les années 70. Alors dans le champ de l'architecture, il y a tout un tas d'expérimentations, notamment qui ont eu lieu dans les années 70, qui se sont greffées notamment aux luttes urbaines. Et il y a eu la tentative, par exemple, de créer un service public d'architecture. C'est de là que sont nés notamment les conseils en architecture, urbanisme et environnement, qui proposent aujourd'hui du conseil gratuit, par exemple. Alors, il y a Michel Ragon, par exemple, a publié un livre à l'époque qui s'appelle « L'architecte, le prince et la démocratie ». Et dans les thèmes qu'il avance pour œuvrer en faveur de la démocratisation de l'architecture, c'est l'habitat populaire et l'autoconstruction et évidemment la participation des habitants au projet. Alors, comme il faudrait que j'accélère un petit peu... Je vais peut-être passer tout de suite à des aspects. Oui, alors peut-être pour finir sur la période contemporaine. Donc en fait, ce qui a fait évoluer ce qui a fait un peu émerger cette question de la participation des habitants, c'est qu'avec les politiques de la ville, tout un tas de projets autour du renouvellement urbain ont fait émerger l'idée que qu'on ne pouvait pas mener des grands projets de renouvellement urbain sans la contribution des habitants. C'est ainsi que la loi SRU est apparue, ensuite la loi sur la démocratie de proximité, etc. Donc aujourd'hui, le monde des architectes et des urbanistes ne peut plus ignorer, en tout cas, cette question de la participation des habitants, et ça fait grandement évoluer les pratiques. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu d'expériences menées par des collectifs d'architectes et d'artistes qui justement essayent de développer des projets qui marchent avec ces trois pieds, l'art, l'éducation et la participation. Et donc, ils développent une posture tout à fait singulière qui part de la question de l'implication. Alors, il s'agit à la fois d'impliquer les gens dans des projets de transformation, mais aussi ça questionne l'implication même du professionnel dans son propre projet. Alors là, à gauche, vous avez par exemple un travail sur la question de la marche qui permet pour certains artistes, donc là c'est le cas d'Hendrik Sturm, de travailler sur la connaissance du territoire à partir de la rencontre avec le public. Donc il organise des marches dans différents territoires et ces moments de marche permettent de partager, d'organiser des moments de partage et de réflexion sur ces territoires et leurs usages. La deuxième image que vous avez là, alors c'est le projet d'un collectif qui s'appelle Dasein, qui est originaire de Marseille et qui a développé un projet autour des peaux bleues. Donc c'est un paysagiste qui est à l'origine de ce collectif et qui un jour a souhaité travailler sur la question du voisinage. Donc on retrouve là cette préoccupation sur habiter et transformer le lieu de vie dans lequel on habite à partir de cette l'intervention dans l'espace public. Donc lui-même a engagé l'installation de pots de fleurs en fait devant son habitat et a cultivé son jardin en fait sur l'espace public devant chez lui et ça a entraîné un ensemble de discussions avec les voisins et finalement la rue entière a fini par être occupée par les habitants et à être embellie comme ça et ou jardinée. Alors autre préoccupation de ces collectifs, c'est par exemple de travailler sur ce que j'ai appelé ici la capacitation, hein, donc comment faire en sorte que les habitants se sentent capables eux-mêmes de prendre en charge leur environnement et la transformation du cadre de vie. Donc là, il s'agit d'un projet du Bureau des compétences et des désirs qui a développé un programme dans le cadre des nouveaux commanditaires de la Fondation de France qui est en principe dédié à de l'art, on va dire plus traditionnel, pas du projet urbain. Mais l'idée, c'est de rendre le public en fait commanditaire de l'œuvre. Et donc là, ça a été appliqué par exemple à un projet d'architecture, donc c'est enfin d'aménagement urbain plutôt. Et donc ce sont les habitants qui eux-mêmes ont construit une demande et ont fabriqué une commande qui a été ensuite donnée à un architecte. Alors aussi, je parle de participation éthique et réflexive parce qu'effectivement, une grande préoccupation de ces collectifs que j'ai rencontrés au cours de mon travail de thèse, c'est de développer une réflexion sur ce que c'est que la participation des habitants. Donc, par exemple, pour le collectif, l'association Arpenteur, qui est à l'origine de nombreux projets de participation des habitants, participer, c'est faire en sorte que les habitants soient pleinement actifs du projet et puissent avoir l'entière décision sur les projets qui sont menés. Donc, évidemment, on est là au cœur du politique, hein, on parle de décision et de décider de ce que devient l'argent public. Donc effectivement, ça nécessite des démarches méthodologiques un peu particulières. Vous avez aussi ici une image d'atelier d'urbanisme utopique qui a pu être expérimenté notamment à Mazières-en-Gâtine. Donc c'est une démarche initiée par le bruit du frigo qui là mobilise l'imaginaire des habitants pour proposer de nouveaux usages et de nouvelles façons d'utiliser l'espace. Voilà. Alors je vais terminer en vous présentant deux grandes familles de projets. Des projets où ce qui est en jeu finalement c'est la question de la relation, parce qu'effectivement travailler avec les habitants c'est s'engager dans de la rencontre et des méthodes pour mener les gens à s'impliquer dans la question de la transformation. Donc Vous avez par exemple là, des projets de la compagnie Complexe Capharnaüm ou du collectif l'association Pixel 13 qui travaillent sur l'imaginaire des habitants aussi et par rapport à partir d'un travail de collectage en fait auprès des habitants pour proposer des représentations des territoires et soulever un certain nombre de débats. Donc il s'agit là d'intervenir dans la relation avec les habitants en amont des projets sur les problématiques même qu'il faut aborder dans le cadre des projets urbains. Alors je vais aller un peu vite. Alors moyen très souvent donc, qui rejoint ce que j'évoquais à propos du collectif Dasein, c'est montrer le faire. C'est-à-dire que ce qui est un moyen de travailler, c'est souvent aussi de faire soi-même, de mettre les mains à la pâte. Donc c'est intéressant de voir des architectes se mettre à faire de la construire eux-mêmes, à passer à l'autoconstruction et ne pas se contenter des dessins. Il s'agit là de montrer qu'on peut faire soi-même et d'inviter les gens à se sentir capables aussi de faire. Voilà. Donc là, souvent, c'est l'idée, c'est d'engager des dynamiques de travail à partir de la fabrication elle-même. Oui, alors pour conclure, je vais finir sur le dernier point qui est ce que j'appellerais ici la création en partage. Donc, il y a deux points principaux, c'est que du coup, ces projets remettent en question en fait la question des langages. Donc, il s'agit de repenser finalement la façon de faire les projets et du coup les outils aussi des techniciens habituels. Donc là, par exemple, Arpenteur a développé Téléquartier, donc une télévision qui a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les projets et à la transformation des espaces, mais à partir d'un nouveau média. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres types d'outils qui sont développés pour pouvoir justement partager l'activité de création. Voilà, j'avais un autre titre, je l'ai perdu. L'esthétisation de la ville, Eh bien non, c'est fermé, c'est terminé, je croyais que j'avais... Voilà, donc peut-être oui, le dernier mot qui est inventer la ville. Alors j'ai utilisé ce terme-là aujourd'hui, on parle d'innovation. Mais effectivement, on est ici dans la recherche un petit peu de moyens et d'outils pour fabriquer de l'innovation. Voilà, ce sera le mot de la fin.
Merci beaucoup, Élise. On va passer maintenant la parole à Benoît Princet qui est dans la salle, je crois, et qui va venir nous rejoindre à la table. Maire de Choupe. Est-ce que je le dis bien ?
Tout à fait.
Bon, ça va alors.
Avec deux PES.
Un exemple innovant de redynamisation pardon, économique d'un territoire. Je voulais maintenir la demi-parité à la table, mais...
Bon. J'ai un clé USB. Alors, je sais pas si...
alors.
Voilà. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis un élu. Benoît Princet, donc je suis maire d'une petite commune de Choupe, mais je suis aussi vice-président à la communauté de communes du Merbalais, chargé du développement économique. Donc, je suis élu depuis 2008, donc ce qui est assez récent. Et donc, nous, on avait un souci. Alors, c'est... Alors, excusez-moi, est-ce que j'essaie d'ouvrir ? Alors, comment je vais...
L'écran. Il doit y avoir en bas quelque chose qui se cache. Quand vous descendez, ça apparaît, non ?
Voilà. Ah voilà, cherchez.
Derrière.
Sortez de là-bas. Ah d'accord.
Là ? À côté de 75%.
Ah pardon. Ok, je l'ai, voilà. Cherchez. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter une démarche, c'est surtout une démarche un peu innovante. qu'on a faite depuis 2011 avec Mairie Conseil. Ça fait partie de la Caisse des dépôts et de conciliation. Donc on avait un soutien, nous, surtout au niveau du tourisme. D'ailleurs, on démarre aussi une démarche sur le développement économique plus global avec Mairie Conseil qui démarre bientôt. On avait un office de tourisme sur notre territoire qui ne fonctionnait pas, qui nous coûtait cher. Et puis, on n'avait en gros pas de retombées économiques. On a essayé de réfléchir au conseil communautaire d'une solution. On avait une approche. On souhaitait essayer de trouver une approche un peu différente de ce qui se fait, parce que on faisait appel à un bureau d'études, comme ça se fait beaucoup, et puis ils nous faisaient un diagnostic sur, voilà, et puis résultat des courses. C'est un truc qui est resté dans les placards. On en a plein les placards, nous, des choses comme ça. Donc on voulait vraiment quelque chose d'un peu différent, assez innovant et surtout participatif entre les élus, la population, les associations, les bénévoles et les professionnels du tourisme. Et puis donc avoir une réflexion sur le long terme, sur le court terme, le moyen terme et le long terme, et que ça soit efficace et avec une réelle stratégie. C'est un peu ce qu'on avait souhaité. Donc on a fait appel à Mairie Conseil qui nous ont accompagnés sur une démarche que je vais vous présenter. Alors pour ça, il faut... qu'est-ce que je fais moi ? C'est le genre de truc... Ah, pardon.
Est-ce que j'ai utilisé peut-être les flèches du...
Ah, pardon. Ah, non, mais il y a... Voilà. Donc, je vais vous faire rapidement une démonstration, vous montrer un peu le lieu du territoire. Donc, on est dans la Vienne, hein, on n'est pas très loin d'ici. C'est le comité de communes du Bermalais. On est situé entre Poitiers, Châtellerault, Loudun. Voilà, on a dans le développement touristique, hein, on a le Futuroscope, on est à 25 km. Et puis il y a un projet de Center Park. C'est aussi ce projet-là qui est aux Trois-Moutiers qui nous a fait un peu réfléchir justement sur le développement touristique. Alors, on est 12 communes rurales hein, qui tendent à devenir périurbaines, hein, 30 minutes de Poitiers et de Châtellerault. Voilà à peu près le territoire, c'est 12 communes, 8100 habitants. Depuis 1999, on a une dynamique démographique, hein, ce qui est croissance de la population de 15% depuis 10 ans. Je vais passer assez vite tout ça. Hein. Voilà, on a des jeunes en milieu rural qui arrivent. On a un bassin d'emploi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est quand même un secteur où industrialisé, on a un secteur du BTP qui est important. On a une industrie agroalimentaire qui est assez importante aussi. On a de la chaudonnerie et puis on a 1500 emplois sur le secteur, ce qui est quand même assez, pour notre territoire, assez important. Donc l'état des lieux qu'on avait fait, on avait un territoire de plaine céréalière et de passage, point de départ de nombreux sites touristiques extérieurs, donc le Futuroscope et le futur Center Park à 25 minutes, les châteaux de la Loire pas très loin, plusieurs sites dans la Vienne, notamment la Vallée des Singes, vous connaissez... donc on a des communes avec des villages très éparses, notamment un petit patrimoine de qualité dispersé, peu valorisé et pas animé du tout. On a deux sites troglodytes qui sont importants, mais peu ouverts aux périodes estivales. Donc voilà, je passe hein, ces points. Donc vous voyez un peu quelques photos. Donc la mise en place de la démarche participative d'identité et attractivité touristique. Donc voilà un peu, on avait démarré en mars à juillet 2011. L'objectif, c'était de rechercher des spécificités du territoire et les valoriser, adapter l'offre à la demande, se différencier des autres territoires. Les différentes phases, donc on avait conseils municipaux, travaillé en groupe, en cartographie, lieu de visite de la restauration d'hébergement, les points de vue, les odeurs. Voilà, ça c'était un travail avec Mairie Conseil. Le conseil municipal et professionnel du tourisme travaille en groupe et s'interroge sur les entrées et les sorties du territoire, les ambiances, les profils, type de clientèle du Mirbalais. Le conseil municipal visite les sites touristiques du territoire par petits groupes et établit un état des lieux. Ça, c'était ce qu'on faisait aussi, c'est surtout qu'on n'envoyait pas le maire sur sa commune, on l'envoyait sur la commune voisine. C'est toujours pour éviter un peu les conflits politiques et tout ça. Donc ça c'était assez sympa et ça permettait aux élus de bien se rendre compte de la situation sur le territoire. Conseil municipal et professionnel du tourisme participent à un jeu de rôle. Ils dévoilent, répondent et à la demande du touriste profil imposé en termes d'hébergement. Et donc ça en fait, c'était la dernière chose. On avait fait dans une grande salle des tables de 8-10 personnes. Il y avait des élus, des professionnels du tourisme, des gens de la population. Et on leur mettait sur la table donc un profil C'est-à-dire que voilà, vous avez une famille, un couple qui se marie au 15 août. Il y a 8 personnes de la famille qui arrivent de l'autre bout de la France. Ils ont un enfant handicapé. Ils ont 2 ados qui sont fous de sport extrême. Voilà, on avait exagéré un peu les choses. Et voilà, qu'est-ce que vous leur proposez? Ils sont là 4 jours avant le mariage, 4 jours après. Qu'est-ce que vous leur proposez sur le territoire? Et croyez-moi qu'ils sont un peu cassés la tête. Et c'est pas été facile pour eux. Mais c'était très enrichissant. Alors, pourquoi cette... plusieurs diagnostics touristiques ont été réalisés. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est que, voilà, on en a plein les armoires de ça. Aucune stratégie sur les territoires. Et donc, là, on avait en fait un souci. On avait fermé l'office du tourisme qu'on avait sur le territoire, qui nous coûtait cher et qui n'apportait rien du tout. Et donc, on l'avait fermé. Et ça, ça a été tout un débat politiquement parlant, puisque les élus, certains élus étaient vraiment contre la fermeture, mais voilà, la population qui allait à l'office du tourisme, c'était les gens du territoire qui essayaient d'aller organiser leurs vacances à l'extérieur du territoire. Donc pour nous, ça n'avait aucun intérêt économique. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est justement organiser ceux qui viennent de l'extérieur et qui restent sur le territoire. Donc voilà, avec l'arrivée du Center Park, on espère capter 1% du flux. Le Center Park, vous savez, c'est un parc où les gens sont autonomes dedans. C'est complètement renfermé. Mais on sait quand même, par rapport, ça va être le 7e parc qui va se monter en Europe, on sait aussi que 70% de cette population qui vient essaye de visiter avant ou après d'être passé dans le parc pour visiter un peu les alentours. Donc c'est 1 200 000 nuitées par an, ce projet-là. Donc c'est pas négligeable. 1% pour nous, ça serait déjà beaucoup. Donc sur la démarche, l'intérêt, on a mobilisé quand même plus de 70 personnes. Les participants sont acteurs et s'approprient le diagnostic, c'était ce qui était le plus intéressant. Les participants ont pris conscience lors des visites de terrain et du jeu de rôle que les Birmanais n'avaient pas d'offres adaptées à la demande. Les majorités des élus présents ont compris donc l'action qui était menée. Les rencontres et le partage entre les partenaires et les élus. Le travail sur l'identité de la communauté de communes du Mirebalais. Et donc, on a réussi quand même à dépasser le conflit concernant la fermeture de l'office du tourisme. Donc, cette démarche, un peu, c'était, ça demandait quand même du temps. C'était assez, assez prenant. Bon, ça, c'est tous les points. Au départ, voilà, c'était un peu difficile à comprendre pour les élus et les professionnels du tourisme. Alors, on partait de loin, effectivement, et pas grand-chose. Voilà. Donc on avait aussi passé, donc on a, voilà, ça c'était le ressenti un peu de tout le monde, hein, scepticisme pour démarrage. Je passe, hein, parce qu'il y a, je voulais arriver quand même à quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, après toute cette démarche-là, on est arrivé sur un plan d'action, mais qui est toujours en évolution, parce que là, aujourd'hui, il n'est même plus du jour, qu'on a mis en place avec les élus et les bénévoles et les professionnels du tourisme, donc qui a été établi par les élus, et non pas par un bureau d'études comme on l'avait souhaité. Il y a une commission qui a été créée. Donc, dans l'immédiat, on a créé le schéma d'intercommunalité signalétique touristique. Aujourd'hui, voilà, on a sur le territoire tous le même signalétique. On met en place une chasse au trésor sous forme de géocasting. C'était quelque chose qui avait beaucoup ressorti pendant la démarche. On a fait une brochure touristique, des animations de sites, des falins. Falin, c'était une ancienne carrière, en fait, où il y a eu des spectacles, du ludique là-dedans, par des compagnies artistiques. Ça va se reproduire. Réalisation d'un site internet qui est en train de se faire. Et puis, il y a mise en place de paniers, des petites choses. Et création d'un réseau d'animation des sites, tout ça. C'est du ludique autour des petites choses qu'on avait intéressantes. Sensibilisation des communes, différentes formes et justes. Ça, c'est sensibiliser les prestataires à la sécurité des sites. Ça, c'était aussi un point important parce qu'ils n'ont pas forcément toujours conscience des risques quand ils reçoivent du public. À moyen terme, voilà, vous avez des moments autour d'une chasse au trésor, créer un circuit du moulin reconstruit. Et puis même, on peut rajouter une chose, parce que c'est en train de se faire, c'est des sentiers d'interprétation autour de l'espèce des oiseaux rares. Nous, le thème qui avait été vraiment retenu, c'était le thème du vent et des oiseaux rares. On a des oiseaux de plaine, qui planent, qui profitent du vent, qui sont notamment la canne pétière, qui est unique en Europe. Et on travaille avec la LPO justement pour développer ce côté touristique-là. C'est pas facile parce que la LPO ne sont pas forcément dans cet objectif-là, mais on pense que c'est découvrir, c'est bien pour l'espèce aussi la protéger, que la population puisse le découvrir. C'est un enjeu et je pense que ça peut aider beaucoup à sauvegarder l'espèce. Voilà, les résultats, donc je vais vous passer ça rapidement. Donc ça c'est voilà. Et puis donc on a rouvert, ça s'appelle une maison du tourisme. En fait, la différence, c'est que là, ce n'est plus une association qui gère, mais c'est un professionnel. On a embauché une personne qui gère. Voilà. Et on a créé aussi un nouveau logo, parce que c'était à la demande des élus du conseil communautaire, de revoir notre logo. En fait, c'est un système de puces. Donc, on a le comité de communes du Vert-Balais en deux parties. Donc, un côté entreprise innovante et territoire, c'est le côté de la zone artisanale et industrielle qu'on a sur le territoire. Et le côté maison du tourisme, on a vraiment essayé d'associer les deux, le développement touristique et le développement économique. Voilà, et alors, un événement, ce qui était, tout à l'heure j'entendais la capacité qu'ont les habitants à se mobiliser sur des projets, et nous on l'a vraiment ressorti suite à cette démarche, puisqu'on a eu l'opportunité d'organiser la Coupe d'Europe Espoir de Montgolfière, et c'était un projet, puisque c'est 35 ballons qu'on a accueillis, de tout horizon, des Espagnols, des Croates, des Allemands. Et quand on a proposé ça, suite à cette démarche, on a réuni toutes les associations. Et on dit, nous, le comité de communes, on est prêt à vous accompagner dans cette chose-là, mais on a les moyens financiers, mais par contre, on n'a pas les moyens humains. Et donc, on leur a proposé, on dit, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce que vous êtes partant? Et en fait, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a une capacité des habitants et des bénévoles. On a eu 150 bénévoles, 25 associations qui ont répondu et 150 bénévoles qui ont travaillé pendant 3 jours sur ce projet-là. On avait démarré ça au mois de janvier, c'est-à-dire au mois d'août, hein, donc c'était les délais quand même très très courts. Et là, on était vraiment surpris, on a accueilli 15 000 spectateurs sur 3 jours. Donc il y avait seulement les décollages, les épreuves le matin et le soir, mais entre les deux, il y avait plein d'animations et plein de concerts le soir. Donc vous voyez un aigle, c'est à 11h, c'est une mise en lumière de Montgolfière sur une musique. Voilà. Donc on était vraiment là, vraiment très surpris de cette capacité qu'ont les... La population, en fait, s'investissent. Voilà, les changements, donc c'est ce qu'un peu... Donc voilà, on implique le développement touristique dans le développement économique. Si je vais trop vite, vous me dites hein, aussi. Donc voilà, on a difficulté parfois, hein, ça reste encore un petit peu, mais certains ne comprennent pas toujours cette politique du long terme. Quand on est élu, vous savez, hein, enfin, mon collègue, c'est ce que c'est. Les gens, ils veulent voir des résultats tout de suite, mais il faut aussi travailler sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Et donc là, on redémarre une autre démarche, donc avec Mairie Conseil, tout ça. Toujours donc sur le dynamisme territoire en économie. Donc voilà la première réunion qui a été le 28, donc qui est toute récente. On a eu 40 participations. Voilà, je trouve que c'est assez innovant cette manière d'approcher en fait des projets et d'essayer de redynamiser le territoire. C'est vraiment basé sur la participation. Puisqu'on pense que si on s'associe, on est beaucoup plus efficace. Et puis on met une stratégie sur le long terme. Alors les élus, ça change, les associations, ça change aussi, les professionnels aussi, mais on passe le mot et puis on essaye d'avoir quand même une stratégie sur le long terme. Voilà.
Merci Monsieur Princet. Il faut faire un grand merci à tous les participants parce que grâce à leur organisation, on a pu retrouver l'heure qui vous était indiquée. Peut-être quand même poser une ou deux questions, je pense, ou voilà. Jackie, tu voulais intervenir ?
Non, juste une demande de précision, mais pour l'ensemble des participants, à part M. Princet, vous avez parlé de la démarche mairie-conseil. Je peux peut-être en dire deux mots simplement sur la façon dont ça se passe, Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Parce que vous êtes la seule communauté de communes de la région à avoir fait appel à cette procédure qui est nationale.
Voilà. Oui, oui, ça dépend de la Caisse des dépôts de conciliation. Donc c'est un service qu'a toutes les collectivités de France, où ils ont tout un tas de juristes dans tous les domaines, où on peut poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. Et ils nous répondent, ils nous orientent toujours vers le professionnel et le spécialiste. Là-dessus, il y a donc mairie-conseil, c'est où il y a un travail de fond, et c'est M. Chéniaud qui est chargé de ça, qu'on avait rencontré, et qui, lui, justement, essaye de trouver un diagnostic, des démarches. Ils ont un protocole sur des thèmes comme ça, et ils nous aident. Alors, c'est complètement gratuit, ça ne coûte pas un centime. C'est prenant et c'est du temps. Hein, et donc, il vient sur le terrain. On avait fait la première étape, on avait été monté à Paris pour le rencontrer parce que, sur toute la France, ils sélectionnent quand même quelques dossiers, ils prennent pas tout le monde. Hein. Donc, on avait été défendre notre problématique sur le tourisme et puis ils avaient accepté. Et donc, il vient sur le terrain après, lors des réunions et des différentes phases, et il cadre un peu tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que. On n'a pas, nous, les moyens et les capacités de le faire, mais ils cadrent tout ça. Donc c'est bien, c'est gratuit et c'est un service que j'invite toutes les collectivités à utiliser. Et d'ailleurs, sur ce démarche touristique-là et sur le développement économique qu'on est en train de faire, j'ai lancé le Conseil Général pour qui, elle aussi, pourrait démarrer cette démarche et avoir une stratégie au niveau départemental et voire au-delà même. Ça serait intéressant.
Merci. Je suis doctorante en aménagement de l'École polytechnique de Tours. Donc c'est pour ça, j'aimerais savoir votre vision en ce qui concerne le territoire. Donc votre commune se trouve vraiment, comme je dis, près de la frontière. Je ne sais pas combien de kilomètres. Et aussi Nancy, Dijon. Et donc il y a l'autoroute. Je suppose que les gens, donc les familles viennent. Ils habitent là-bas et ils travaillent ailleurs. Comment ça marche, donc, l'économie, disons, locale? Et l'autre question aussi pour tous les deux, si c'est possible, quelles sont les relations de vos communes, intercommunalités, avec la région, vos régions? Est-ce qu'il y a initiatives, vos initiatives à proposer à la région? Est-ce que la région vous soutient ou il n'y a aucune communication? Merci.
Alors, en ce qui concerne ma commune, on va parler en temps. Hein, c'est 1h30 de la Suisse et 1h30 de Nancy. D'accord ? Donc, ça situe. C'est 1h30 de Besançon. Vous voyez ? Vous situez mieux ? Non ? Pas du tout ? Ah, d'accord. Ça, c'est pour répondre à la première question. Et puis ensuite, quelle est la vue sous le territoire ? Alors, c'est très simple, hein. Les partenariats existent avec les autres collectivités. Vous avez cité la région, vous avez cité le département, vous pouvez aussi citer l'État, les fonds européens, quand on est éligible, etc. Alors, il y a deux approches à faire. Il y en a une qui, malheureusement, est une histoire d'homme et qui se résume souvent à une approche politicienne. Vous êtes dans les clous, vous n'êtes pas dans les clous par rapport à vous êtes qui, vous êtes dans quel... Voilà, ça, c'est déjà ça. Alors, quand vous n'êtes ni dans les clous de l'un, ni dans les clous de l'autre, c'est un peu plus compliqué. Hein. Par contre, il y a des initiatives qui sont reconnues. Si on prend l'initiative liée au logement que l'on a un peu, plus qu'un peu initiée dans notre commune, elle est devenue après initiative départementale. Elle est devenue après initiative régionale. Mais pour cela, il faut, il faut s'introduire dans les espaces décideurs. Ce qui fait que moi, je suis en retraite depuis un an, mais avant, je faisais exactement la même chose. Ça veut dire que je suis dans toutes les commissions départementales, je suis dans tous les espaces où des décisions se prennent. Alors, je n'ai pas fait état des titres qui sont... Je vous ai parlé de président de communauté de communes, mais je suis également vice-président d'un SCOT. Je suis également vice-président d'un pays, D'accord ? Et je suis président des maires ruraux, etc., etc., etc. Et tout cela, c'est pas pour avoir un cumul de mandats qui, la plupart, vous savez, donne à notre niveau pas grand-chose, mais simplement pour être présent là où on peut avoir des décisions, là où il faut souvent forcer les décisions parce qu'il faut forcer les enveloppes. Voilà. C'est pour répondre à... Mais bon, bon an, mal an, quand vous avez un peu d'expérience et que vous êtes reconnu et que vous jouez la carte forte tête, eh bien après, on essaie de vous respecter, quoi.
Juste, nous, les relations qu'on a avec la région est pratiquement nulle. Voilà. Par contre, on a une bonne relation avec le département sur le développement économique et touristique. On travaille ensemble. La région, non, parce que le discours, c'est qu'on est trop petit et qu'on n'a pas une réelle stratégie de développement. Et en fait, c'est le pays. On fait partie d'un pays, donc c'est 4 communautés de communes. Et en fait, la région ne voit que par le pays. Et si on ne rentre pas à l'intérieur du pays sur une réelle stratégie au niveau pays, et ben on n'est pas suivi, on n'est pas financé, hein, contrairement au département.
Je peux ajouter un mot ? Si on parle de participation, et c'est vrai que bon, on a également un office de tourisme, c'est la communauté de communes qui, c'est une association, mais c'est la communauté de communes qui finance. Il y a quand même 3 professionnels dedans. Hein. Et c'est vrai que le tourisme, c'est souvent une réponse à l'économie, hein, localement. Et c'est quelquefois la seule réponse. Mais là, pour cela, il faut organiser les capacités d'hébergement. Il faut les multiplier. Il faut surtout se faire rencontrer tous les gens qui ont des produits touristiques. Parce qu'à 10 km, ils ne se connaissent pas ou ils ne savent pas ce que font l'autre ou ce qui a comme potentialité, de manière à organiser. Alors tout ça, c'est un travail de fond. Moi, j'ai organisé il y a un mois et demi maintenant une rencontre de tous les acteurs du tourisme sur, non pas ma communauté de communes, mais sur 4 communautés de communes qui sont à peu près dans la même situation géographique. Et on s'est aperçu que là, il y avait vraiment des liens qui pouvaient se créer. Et surtout, l'intérêt, c'est quoi? C'est de faire de l'économie derrière. C'est-à-dire que des gens viennent pas de passage uniquement, mais s'ils font un passage, qu'ils le font de 2 jours, de 3 jours, etc., etc. Mais vous avez raison. Il faut que... C'est la réponse que vous avez donnée. Si j'ai un gamin de 6 ans, j'ai deux ados, etc., etc., qu'est-ce que je peux leur proposer? Et là, il faut avoir les réponses localement. Sinon, et on n'est pas près d'une autoroute. Hein. D'accord? L'autoroute, c'est une fois une voie, vous voyez?
L'autoroute mène à tout, à condition de savoir en sortir. Non, simplement pour préciser sur la démarche mairie-conseil, caisse de dépôt. Donc, au niveau du collectif, on travaille avec la Caisse des dépôts mairie-conseil sur une démarche, comme le tourisme, sur la construction de politiques d'accueil et d'attractivité des territoires. Donc si on a failli travailler d'ailleurs avec la communauté de communes de l'Argentonais. Donc là, c'est aussi gratuit et sur le même principe. Et on est en train de travailler, donc toujours avec la Caisse des dépôts mairie-conseil, dans le dialogue urbain-rural sur une expérimentation ville-campagne. Et notamment, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, travailler sur ces écosystèmes territoriaux qui relient les villes et les campagnes. Et là, ça va donner lieu aussi à une expérimentation et les territoires qui seront volontaires seront accompagnés gracieusement. Voilà. Alors, et pour finir, tout ce que vous avez dit, Monsieur Princey, tout ce que dit Michel, on est bien là sur la manière nouvelle de se représenter ce qui fait économie sur les territoires. Et on entend, en fait, via les travaux de Davzi, pour ne pas le nommer, l'économiste, on entend bien ce qui relève de l'économie productive, de ce qui relève de l'économie résidentielle, le tourisme faisant partie intégrante de l'économie, sauf que c'est une économie dite résidentielle, mais on est bien sur cette nécessité de trouver des capteurs de richesse et de la création de richesse dans vraiment le souci d'un développement durable et plus une exploitation économique minière, comme on peut l'entendre au figuré.
Y a-t-il encore des questions ? Oui, je crois. On prendra 2 questions et puis après on passera à la suite du programme.
Oui. Bonjour, Juliette Loinger du collectif Ville Campagne. Alors moi j'aurais juste une petite question pour Michel Fournier. D'abord vous dire que je trouve que quand même le travail que vous avez fait dans votre commune, c'est un très bel exemple, ouais, de développement local et surtout de solidarité sur du long terme. Donc moi, j'ai juste une question sur le foncier. Ce que vous dites, vous avez dit que vous étiez propriétaire d'un étang pour 25 ans, et donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui va en devenir, parce que si je ne m'abuse, le délai va bientôt se terminer. Voilà.
Alors, en fait, on a piégé personne. Mais quand on leur a dit vous investissez localement, en fait, vous aurez comme, puisque dans une SCI, normalement, il peut y avoir des recettes. En fait, la seule recette espérée, c'était la location de la commune à la SCI. Elle était tout à fait symbolique. Et le privilège qu'avaient ces personnes qui s'inscrivaient, qu'on leur a donné, c'était un droit de pêche qui pouvait être pas forcément à titre gratuit. Vous voyez, d'un privilège. Finalement, on s'est aperçu que sur les 117, il y en avait 10 qui le pratiquaient. L'important, c'est pas ça. Ça a été de les convaincre. Alors, naturellement, il faut aller vite, hein, mais il y a eu des réunions pour cela. Il y a eu des réunions très difficiles. La première, on l'a fait dans le bistrot. C'est plus facile. Il y avait une centaine de personnes là pour les convaincre que, effectivement, il était préférable à un moment donné de réfléchir et de prendre ses responsabilités plutôt que de se plaindre sans arrêt que rien n'avait, etc., et de continuer à jouer les pleureuses. Si vous avez un peu d'argent, tu es grand-père, tu as 3 ou 4 petits-enfants, eh ben plutôt que de faire un cadeau de Noël, peut-être, excusez-moi, à la con, eh ben tu prends une part sociale pour chaque petit-enfant et tu les impliques dans le territoire, etc., etc. Il y a eu tout un travail comme ça, de sensibilisation, de manière à dire « Et maintenant, c'est leur truc. C'est à eux. » Même s'ils ne sont plus propriétaires pendant ces 35 ans, ils y viennent, ils assurent. Vous parliez d'événementiel, on organise, alors on ne peut pas tout dire, hein, mais on organise des promenades gourmandes, etc. C'est 70-80 personnes qui travaillent. Et ils viennent, ils se sentent chez eux. Au bout de 35 ans, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Hein. On a un droit de préemption, la commune. On a un droit de préemption sous la location, sous la vente. Et on a ficelé le contrat de telle façon à ce que, en gros, bah voilà, les gens, c'est à fond perdu, quoi. Voilà. Mais je peux même vous dire que j'ai pris les 5 premières parts pour montrer que je croyais à mon projet et qu'on m'a mis au tribunal pour prise illégale d'intérêt. Ouais, ça n'a pas de limite. Hein.
Une question à côté, je crois, oui.
Bon, ben voilà, moi je m'appelle Cédric et je m'occupe sur Poitiers des incroyables comestibles. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, on est simplement sur une action de transformation du territoire où on pense que l'espace public, plutôt que de nous coter du pognon, pourrait rapporter un petit peu aux populations et répondre à la première nécessité des individus, c'est-à-dire manger. Voilà. Et depuis tout à l'heure, j'entends parler d'économie, d'activité, d'emploi. Donc effectivement, dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment des préoccupations. Mais je suis plutôt d'accord avec le fait qu'on doit changer un petit peu notre façon de fonctionner, parce qu'à fonctionner dans le même cadre, dans le cadre qu'il nous laisse, on n'arrivera pas à avancer. Donc moi, je serais plutôt dans je sais pas si c'est une innovation ou un retour au bon sens, parce que voilà, le but du jeu pour moi, ça serait plutôt d'essayer d'amener les gens. À ce que leurs besoins soient satisfaits pour qu'ils soient libérés de toutes les contraintes qui nous obligent à aligner notre intégrité au travail. Voilà, c'est pour dire ça simplement. Donc je trouve ce que vous avez fait au niveau de votre village dans les conditions actuelles extraordinaires. Voilà. Mais je me demande si on ne devrait pas plutôt penser nos territoires autrement pour qu'ils assurent la nécessité de nos populations plutôt que de les faire passer pour un travail. Enfin voilà, il y a une étape de trop en fait. On est des êtres humains, on a besoin de manger et on n'a pas besoin de passer par une activité économique ou de l'assistanat, parce que c'est un des deux en général, hein. Soit on travaille, soit on est assisté. Et j'aimerais bien qu'on puisse voir le développement urbain autrement qu'avec des artistes pour exploiter pleinement notre espace public pour qu'il soit mis au niveau de la population. Donc c'est pas une question, en fait, c'était plutôt un sujet de réflexion. Aujourd'hui, il y a à peu près 120 à 130 villes de France qui sont en train de rentrer dans la démarche des villes en transition et des incroyables comestibles. Et on va avoir besoin d'élus, justement, oui, on a besoin de vrais élus. Parce que pour le moment, nous, à Poitiers, on va vous le dire honnêtement, on a une mairie de gauche. On a Monsieur Claes qui comprend pas, et on a un maire qui bloque jusqu'à la semaine des initiatives citoyennes du Conseil de développement. Donc on a besoin d'acteurs pour entrer dans une réflexion de réaménagement de nos espaces publics au bénéfice de tous. Voilà.
Moi, j'aimerais rebondir sur la notion de travail, parce que bon, je suis, j'ai l'impression qu'en fait, on partage tous ici la même envie, c'est-à-dire de changer les choses, de bouleverser les limites, d'aller hors des marges pour essayer de trouver d'autres opportunités de développer le territoire. Enfin, voilà, je pense que ça, on le partage. Par contre, c'est pareil, je trouve l'expérience vraiment, moi ça met du baume au cœur de se dire que effectivement avec tous les préjugés autant sur la campagne que la campagne sur autrui, vous ayez pu faire venir des personnes de tout horizon sans avoir peur à aller contre les mentalités, tout ça, je trouve ça vraiment formidable. Et d'ailleurs après la dynamique qu'il y a sur votre village, elle est liée à ce que vous avez réussi à démontrer, en fait, qu'on partage tous la même envie. Et pour, en fait, j'ai pris la parole pour rebondir sur la notion de travail. Parce que, alors, travail et assistana, moi, c'est deux mots qui me... je pense qu'il n'y a pas d'assisté, déjà. Parce qu'un assisté, c'est celui qui veut bien être assisté. Ça veut dire qu'il attend juste qu'on lui donne un peu de sous pour survivre. Et je ne pense pas que la vocation de l'être humain, ça soit d'être assisté. Et puis, la notion de travail, pour moi, elle devrait se déplacer sur la notion métier. Parce que le travail, effectivement, c'est bon, je bosse pour aller chercher ma paye et pour pouvoir subvenir à mes besoins. Sauf que derrière le travail, il y a un métier. Et chaque métier a sa place au sein du système. On en revient à la complexité. Et je pense que chaque métier a ses lettres de noblesse et tout dépend de la façon dont on voit le métier qu'on pratique. Donc, je dis ça peut-être aussi parce que j'ai eu plein de métiers. Donc je pense qu'il y a vraiment redonner du sens au métier qu'on fait et dans quel cadre on le fait, pourquoi on le fait, à quoi ça sert. Et je pense qu'en fait... je ne sais pas au final quel était le but de mon intervention, mais c'était pour essayer de déplacer les regards, en fait. Oui. Voilà.
Moi, je partage une chose, on peut appeler ça l'échange. L'échange. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours défendu non pas le droit au travail, j'ai défendu le droit à l'activité, ce qui est quand même un peu différent. Et ce n'est pas péjoratif. Parce que depuis plus de 20 ans que je suis responsable d'une structure qui est dans ce qu'on appelle l'insertion, je me suis aperçu d'une chose. Ça, c'est fondamental. Même si la population a changé, même si les gens d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 20 ans, qu'il n'y avait plus la même, les notions ont changé par rapport au travail, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de l'instant où vous créez les capacités de croire en quelque chose, ben, vous avez déjà bien avancé. Et pour croire en quelque chose, il faut réaliser. Et c'est incroyable comme les gens, après, qui sont passés dans les chantiers, reviennent avec leurs familles, leurs enfants, même s'ils sont de l'extérieur, parce que pour la plupart sont de l'extérieur, en disant, ben, moi, j'y ai participé, moi, j'ai fait, moi, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Donc, en fait, chacun a besoin d'un souci de reconnaissance. Alors, souvent, la reconnaissance, c'est effectivement la paix à fin du mois, mais ça peut être autre chose. On est bien d'accord.
Merci à tous pour ces interventions. Je crois que maintenant, on va passer à la table ronde qui suivait dans notre programme et proposer à Monsieur Bexir de nous rejoindre à la table, mais aussi sans doute Claude Poquet, Monsieur Giré et puis Monsieur... Bon, très bien. Voilà. Madame Fortuné. Et merci encore aux intervenants de nous avoir... permis de découvrir leurs expériences et leurs innovations. Au revoir.
va vous proposer d'intervenir. Monsieur Poquet va poser la projection de son photo avec son intervention. Madame Fortuné va intervenir, puis je pense qu'après on aura un petit débat avec la salle et entre vous.
Mais j'ai quelque chose aussi à projeter.
Ah, mais vous pouvez l'installer. D'accord. Voilà. Oui.
Ah, je le vois là. Pardon. Très bien.
Je vais prendre le micro comme ça, je vous remercie. Bon, tout d'abord, vous remercier de votre invitation. Pour ne rien vous cacher, je suis dans une situation un petit peu délicate pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas pu participer à vos travaux ce matin. En fait, nous avions la visite du CRUS, qui est donc la commission unique pour l'évaluation des dépenses des fonds sociaux européens toute la matinée. Et nous avons un conseil communautaire ce soir, et donc la journée a été un petit peu chargée. Et ma deuxième crainte, c'est que j'ai un petit peu peur, après ce que je viens d'entendre depuis que je suis arrivé, d'être un petit peu hors sujet, ou en tous les cas d'être, d'enfoncer des portes ouvertes. Mais bon, je me lance quand même. Lorsque j'avais reçu,
avec vous.
Je vous remercie. Je vous remercie. En tous les cas, je vous remercie par avance de votre compréhension par rapport à ce que je vais raconter. Lorsque j'ai reçu le texte qui appelait à communication, j'ai retenu dans ce texte un certain nombre de mots et un certain nombre de phrases qui m'ont fait réagir à propos de l'innovation. Notamment l'innovation dans les territoires, c'est les politiques d'innovation dans les territoires, les systèmes de gouvernance de ces politiques innovantes. Donc d'un côté on parle de politique d'innovation et de l'autre côté on parle de politique innovante. L'innovation sur les territoires, les usages bien entendu et donc l'expérimentation. Et puis l'innovation et le développement local. Et j'ai vainement cherché, alors comme je ne sais pas si c'est pas une boutade que je vais faire, mais j'ai vainement cherché les mots évaluation et performance que je n'ai pas trouvé dans votre texte d'appel à communication. Mais bon, c'était juste une petite remarque en aparté. L'idée que j'ai de l'innovation. Dans le sens même de l'innovation, il y a une dimension d'opérabilité. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, je ne commence à parler d'innovation que lorsque la chose est mise en expérimentation et fait l'objet d'un usage. Et dans ces cas-là, je dis, il y a une idée qui a conduit à quelque chose qui, aujourd'hui, est appliquée. Et cette chose qui est appliquée de manière innovante. L'idée a été innovante, etc. Donc, dans la notion d'innovation, contrairement, par exemple, à la découverte ou à la recherche fondamentale, etc., il y a cette notion d'opérabilité, cette notion de faire les choses, de concrétiser une idée qu'on a considérée comme une découverte pour la transformer en innovation sur le territoire opérationnel. On a toujours considéré que les liens intimes entre la nature du tissu socio-économique et comment ce tissu socio-économique est capable de faire émerger des innovations, pour moi, il y a trois points extrêmement importants. Le premier, c'est que il faut, pour faire émerger de l'innovation, il faut qu'il y ait la conjonction d'un certain nombre de choses, et notamment la conjonction entre une réalité et des volontés. Alors, une réalité, c'est un état des lieux. Ça veut dire que, en fait, pour qu'un territoire puisse commencer à innover, il faut que nous, les élus, ou en tous les cas les opérationnels, il faut qu'on ait une idée très précise de ce qu'est ce territoire. Dans quel état il se trouve, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il est capable de produire, etc. Et puis ensuite, il y a la volonté. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la volonté politique. Est-ce que les collectivités, est-ce que les politiques veulent innover ou ne veulent pas innover? Ou alors, est-ce qu'ils veulent innover en mettant peu d'argent ou est-ce qu'ils veulent innover en investissant beaucoup et de l'argent et des idées et des hommes, etc. Et ensuite, il y a la volonté des acteurs. Donc la conjonction de ces deux volontés sont extrêmement importantes et complètement dépendantes l'une de l'autre pour arriver à faire émerger une innovation. La volonté de ces acteurs, c'est les endroits où on réfléchit et où on cherche, les universités, les laboratoires, etc. C'est aussi au sein des entreprises, c'est aussi les syndicats, c'est les associations et c'est les citoyens. Et donc, il est nécessaire qu'il y ait une conjonction, pas simplement d'un état des lieux d'un territoire, mais aussi une conjonction de volonté politique et citoyenne. Et ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est que j'avais relevé ça en fait dans le texte, le besoin socio-économique n'est pas forcément une condition nécessaire pour faire émerger de l'innovation. Je considère qu'il y a une innovation qui est appelée par le besoin, bien entendu, hein, en faisant un état des lieux sur un territoire. À un certain moment, il y a des dispositifs qui ne marchent plus. Et pour qu'ils puissent marcher, ces dispositifs, il faut trouver d'autres moyens. Il faut innover d'un point de vue opérationnel et puis d'un point de vue politique aussi. Donc ces innovations qui sont appelées par le besoin sont induites par une nécessité sociale, parfois aussi par une nécessité réglementaire, c'est-à-dire que cette innovation, elle peut être la conséquence d'un changement de réglementation et on est obligé d'aller plus loin. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de l'innovation dans une entreprise qui fabrique un produit à un certain moment. La méthode de fabrication de ce produit, à un moment donné, n'est plus autorisée parce que, il y a des conséquences environnementales qui ne sont plus en adéquation avec la réglementation actuelle. Et donc, on est obligé d'aller chercher des procédés qui sont innovants et qui sont calés à la réglementation. Ces innovations-là sont souvent incrémentales, c'est-à-dire que ce sont des innovations, ce qu'on appelle les innovations d'amplification. On a quelque chose qui existe et on a envie de l'améliorer, on a envie de le changer. Il y a le besoin se ressent parce qu'il y a un manque par rapport à ce qui se fait. Et donc, on arrive avec quelque chose qui est innovant, mais on incrémente quelque chose qui existe déjà. Et puis, il y a l'innovation qui s'impose. Très souvent, cette innovation, elle est de rupture. C'est-à-dire que, en fait, vous arrivez avec une idée sur un territoire, dans une entreprise, dans une association. Vous arrivez avec une idée nouvelle et c'est une idée nouvelle qu'il faut imposer. Et là, ce n'est pas simplement la volonté qu'il faut, mais c'est aussi l'adéquation entre les objectifs du citoyen, de la collectivité, de la société, qui doivent être totalement en adéquation, sinon ça ne marche pas. Et il y a quelque chose que, le troisième point, quelque chose qui, en France, en tous les cas, n'est pas quelque chose de très admis. Il faut qu'on arrive, en tous les cas, je parle au nom des collectivités, il faut qu'on arrive à intégrer l'échec. L'échec n'est pas un résultat négatif. Lorsque on arrive avec une idée innovante, qu'on la met en application, que cette idée ne marche pas, et puis il ne faut pas abandonner. Et au contraire, cette idée qui n'a pas marché peut donner beaucoup d'idées. Et donc, c'est ce que j'appelle l'inopérabilité positive de l'innovation dans le tissu socio-économique. À mon avis, c'est quelque chose absolument qu'il faut qu'on dispatche ou qu'on intègre, qu'on injecte dans la conscience du citoyen, dans la conscience de l'entreprise, dans la conscience des associations. Quand on n'arrive pas, quand on procède à la traduction opérationnelle d'une innovation et qu'on échoue, ça n'est pas un mauvais résultat. C'est simplement que ça n'a pas été adapté et au contraire, il faut aller plus loin. C'est pour ça que je dis souvent que l'échec ne doit pas verrouiller la volonté d'innover. Il faut au contraire y aller. Et souvent, je dis que l'échec donne à réfléchir et que, en fait, le succès incite plutôt à reproduire le succès, alors que l'échec donne souvent à réfléchir et ça, c'est très important. Alors, par contre, les limites de tout ça ce sont les limites socio-économiques. C'est-à-dire que, effectivement, quand je dis qu'il faut intégrer la dimension statistique de la réussite en disant mieux je joue, plus j'ai de chances de gagner, au lieu de dire plus je joue. Hein, c'est mieux je joue, plus voilà. Plus j'ai des idées innovantes et plus je les essaie, plus j'ai de chances d'en avoir une qui marche. Et c'est vraiment, normalement, ça doit être très bien. Et donc, les limites, c'est bien entendu les moyens socio-économiques, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, la volonté politique, elle est un petit peu de plus en plus restreinte par les moyens financiers dont disposent les collectivités et bien entendu, le cadre réglementaire. Juste un petit aparté, parce que là, on a beaucoup parlé de territoire, l'innovation des territoires. Moi, je fais juste une petite digression vers l'innovation au sein des entreprises. C'est écrit en tout petit en bas. En fait, 50% des grandes entreprises et 15% des PME sont innovantes en produits. Ensuite, je vais vous expliquer. 23% des entreprises réalisent des innovations non technologiques. Alors, il y en a 47% en Allemagne et 60% au Japon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ici, en France, nous n'avons que 23% des entreprises qui essaient d'innover, pas en termes de produits, pas en termes de marchandisation, mais en termes, par exemple, social. En Allemagne et au Japon, il y en a 47 et 60%. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris que l'innovation sociale au sein des entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ou en tous les cas, l'humain au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui est important. Et 30% des entreprises innovantes en France n'ont pas d'activité R&D en interne. Vous imaginez, je suis une entreprise, je travaille sur des produits que je considère comme innovants. Toute la recherche et développement, je la fais chez une autre entreprise et non pas in-house, comme on dit à la maison. L'idée de l'innovation, c'est une notion dont je parlais tout à l'heure, en parlant de ce fossé extraordinairement géant entre l'innovation et la création de richesses. Quand je parle de création de richesses, j'entends la richesse économique, sonnante et trébuchante, bien entendu, mais je parle aussi de la richesse sociale. La chaîne de valeur qui va de la découverte à l'usage et puis à la création de richesses, c'est une chaîne qui est assez connue. Je passe rapidement là-dessus. Il faut vraiment faire la différence entre ce que je disais tout à l'heure, la découverte, la recherche, l'augmentation de la connaissance au travers de la recherche fondamentale ou au travers des laboratoires qui travaillent, comme les vôtres, etc. Vous essayez de réfléchir sur les problématiques sociales, économiques, humaines, etc. C'est très important. Donc vous augmentez la connaissance et à partir d'un certain moment, vous découvrez quelque chose. Vous dites, ça, après moult réflexions, après des recherches, des observations, des outils, de l'expérimentation et de l'expertise, va se dégager quelque chose. Je découvre, j'ai une idée que je découvre, etc. Cette idée, on la découvre très souvent par ce besoin de créativité qu'ont nos laboratoires et nos penseurs et puis les gens qui réfléchissent un petit peu à la société. C'est de la créativité et puis parfois c'est de la sérendipité, c'est-à-dire que on est en train de chercher quelque chose et puis d'un seul coup on trouve quelque chose qu'on n'était pas en train de chercher. C'est ce qu'on a appelé la sérendipité. Ça arrive très souvent qu'au travers de nos chemins qu'on emprunte pour aller comprendre mieux des choses, que d'un seul coup on découvre que à côté il y a quelque chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé et qui peut être super intéressant à développer et puis à aller plus loin. Et donc, après avoir découvert, on parle d'innovation. Et là, pour aller vers l'innovation, il faut mettre en place tout un processus d'ingénierie pour traduire cette idée, cette innovation, pour la traduire opérationnellement. Et là, il faut de l'ingénierie. C'est-à-dire il faut comprendre un petit peu comment cette innovation ou cette idée va se traduire, pas simplement sur le marché, mais au niveau de la société, l'exemple que vous avez donné, comment cette idée-là va se traduire, comment elle va impacter mon tissu social, comment je vais interagir avec d'autres territoires par rapport à ce que je suis en train de faire sur le mien, etc. Alors ensuite, bien entendu, il faut l'évaluer, l'évaluer, vous l'évaluez en fonction de la mentalité des gens qui vont subir votre innovation ou accepter votre innovation ou utiliser votre innovation. Et ensuite, qu'importe. Et ensuite, vous avez l'usage de cette innovation lorsque cette innovation est partie. Et donc, généralement, dès qu'on commence à utiliser une innovation ou à travailler sur une innovation, l'idée essentielle, c'est de la pérenniser. Et pour la pérenniser, il faut l'incrémenter, c'est-à-dire qu'il faut veiller toujours à ce que cette innovation puisse garder son rôle, le rôle que vous avez voulu lui donner à ce moment-là. Donc il y a une conjonction d'idées et il y a une conjonction de compétences et de métiers. C'est-à-dire la mise en œuvre d'une idée pour la mettre de manière opérationnelle et la traduire de manière opérationnelle et l'utiliser, bah, ça fait intervenir plusieurs métiers. On ne peut pas être le seul à avoir inventé, ingénieré et utilisé. Il y a un certain nombre de métiers. C'est pour ça qu'au sein des collectivités, il faut absolument qu'on comprenne ça. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas être capable de tout faire. Et que cette personne, elle doit travailler avec d'autres personnes qui ont différentes compétences. Et chaque compétence va être mise en œuvre au cours de cette chaîne de valeur, depuis celui qui a inventé jusqu'à celui qui va pérenniser l'usage. Là, je vais peut-être parler de quelque chose qui n'est pas très, entre guillemets, catholique. Moi, je suis convaincu. Alors, peut-être on n'entend pas ça beaucoup de la part des politiques. Je suis convaincu qu'il faut que les territoires soient totalement perméables à l'innovation. Alors, c'est très facile de le dire quand l'innovation est une innovation sociale. Par exemple, je ne sais pas, mettre en place un dispositif qui permette l'insertion, un nouveau dispositif qui permette mieux d'insérer les gens qui sont très éloignés de l'emploi, je vais en parler tout à l'heure. Une innovation comme ça est complètement transportable, tous les territoires acceptent de parler de leurs expériences, d'échanger leurs expériences, et puis que ce soit, par exemple, moi je parle du territoire de Grand Poitiers, que ce soit aller faire ce qu'on appelle du benchmark, je crois, ça se dit, hein, du benchmarking, on va aller voir ce que font les autres territoires, les autres territoires viennent voir ce que je fais, on s'échange, etc. Là, il n'y a pas de souci. Puis dès qu'il s'agit d'entreprises innovantes, alors là, c'est la guerre. Eh bien, moi, je suis contre ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait une perméabilité totale des territoires, et notamment au niveau national. Donc, pour traduire un petit peu cette histoire-là, je dis que une entreprise qui est installée sur mon territoire et qui, à un moment donné, ne trouve plus les moyens de se développer sur mon territoire et qu'elle le trouve sur un autre territoire, normalement, moi, en tant que politique, je dois être disposé à l'aider à partir. Déjà, quand je dis ça, en politique, il me dit, mais tu es fou. Si, il faut l'aider à partir. Et de la même façon, lorsqu'une entreprise veut venir s'installer chez moi, parce que chez moi, elle est susceptible de trouver les moyens de se développer et de s'enrichir et de créer de l'emploi, etc., eh bien, je dois être capable de mettre en place les conditions pour accueillir cette entreprise. Alors, ces trois petits schémas sont un petit peu... Enfin, c'est assez schématique. Vous avez le Grand Poitiers, ensuite vous avez le département, puis la région, et puis ensuite vous avez la partie nationale. Comment aujourd'hui faire, et je crois que ça pourrait être quelque chose de très innovant, c'est d'essayer de faire comprendre à tous les territoires qui nous entourent, ou tous les territoires nationaux, qu'en fait une réflexion sur le développement économique d'un territoire doit être une réflexion nationale. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des réglementations qui ne le permettent pas, ou en tous les cas, il y a des dispositifs qui sont mis en place qui ne le permettent pas. Quand on parle de régionalisation, quand on parle des pôles de compétitivité, les pôles de compétitivité sont régionalisés, c'est-à-dire que chaque région voulait son pôle. Pourquoi chaque région voulait son pôle ? On ne comprend pas. Pourquoi un pôle de compétitivité ne pourrait pas associer un laboratoire à Poitiers, un laboratoire à Marseille, un laboratoire à Lille, qui, Les trois laboratoires travaillent sur exactement la même question, s'intéressent au même sujet et veulent aboutir au même objectif. Eh bien non, à un moment donné, quand on a parlé de pôles de compétitivité, on les a régionalisés, et c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des territoires qui ont leur pôle de compétitivité, leur université, leur etc., leur etc. Moi, je suis très content quand un thésard ou je sais pas un master issu de l'université de Poitiers va travailler à Nancy ou à Paris. Et je suis très content d'accueillir des gens qui ont été formés à Lille ou à Rouen. Quand je parlais en fait de limite un petit peu à cette idée de perméabilité de territoire, hein, pour enfin, rendre les territoires moins égoïstes qu'ils ne le sont, alors je mesure un petit peu ce que je dis, hein, c'est surtout quand il s'agit de développement économique et de création de richesses de sonnantes et trébuchantes, il y a aujourd'hui pour nous un problème qu'on se pose de manière très sérieuse, c'est l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle aujourd'hui, il n'y a pas un jour où vous ne trouvez pas dans la presse d'abord qu'on parle d'innovation, d'une part, et puis ensuite qu'on parle de l'acte 3 de la décentralisation et les prérogatives des collectivités et de ce qu'on appelle soit la territorialisation d'une politique ou d'une politique territoriale. Alors, selon les sujets qu'on aborde, on vous dit « Ah non, ça, c'est une politique territoriale. » Ou alors « Ah non, ça, c'est une politique nationale, mais elle doit être territorialisée. » C'est-à-dire, on doit la traduire au niveau du territoire. Et donc, l'acte 3 de la décentralisation, qui n'a pas encore été complètement finalisé, c'est quelque chose qui va nous donner un certain nombre d'informations, et nous, par la suite, en tant que collectivité, on va réagir par rapport à ça. Et puis ensuite, il y a l'état stratège qu'on demande, dont on demande, bien entendu, la pérennité. Bon, là, je passe un petit peu sur cette histoire-là. Je vais quand même vous parler juste d'une petite chose concernant l'innovation sur notre territoire. On a un dispositif qui s'appelle le plan local pour l'insertion et l'emploi. Ça s'appelle le PLIS. C'est un dispositif qui est cofinancé par les fonds sociaux européens. Et c'est un dispositif qui s'adresse à des gens qui sont extrêmement loin de l'emploi. Donc, ce sont des gens qui ont plus de 26 ans, un petit peu plus de 2 ans de chômage, qui ont des problèmes soit d'addiction, de santé, etc. Donc c'est une population qui est extrêmement difficile, très difficile, mais dont on a mis en place ce dispositif PLI sur le territoire de Poitiers. Il existe depuis le début des années 90. Et en fait, il y a quelques années, quand on a fait un petit bilan de ce qui s'est passé depuis toutes ces années, on a remarqué qu'en fait, il y avait... tout à l'heure je parlais d'évaluation, qu'on pouvait être plus performant autrement. Et donc ce qu'on a fait, c'est essayer d'innover la mise en place opérationnelle de ce dispositif, d'incrémenter un petit peu le dispositif au travers d'idées un petit peu innovantes. Donc la première des choses qu'on a fait, c'est que le service éco, on l'a restructuré. Et on l'a restructuré en 3 pôles. Il y a le pôle que j'appelle implantation et puis développement des entreprises. Il y a un pôle emploi qui est très important et un pôle animation. Et ce pôle emploi, en fait, on a intégré dans ce pôle emploi le plan local pour l'insertion et l'emploi. On a intégré les clauses d'insertion et on a intégré la plateforme de recrutement. L'idée, c'était de se dire que il faut que ce dispositif reste ce qu'on appelle un organisme intermédiaire, mais qu'il soit directement géré, parce qu'auparavant il était géré par une association. Et en fait, l'augmentation de plus en plus importante de la complexité des dossiers européens a fait que l'association n'avait plus les moyens financiers de recruter des gens qui étaient spécialistes dans les dossiers européens, parce qu'ils sont assez compliqués, etc. Et donc on a décidé d'intégrer ce dispositif et puis de rapatrier un certain nombre de salariés qui étaient dans cette association, et on a rajouté des gens pour prendre en charge toute la partie fonds européens, etc. Et en fait, À un certain moment, au cours des deux dernières années, on s'est aussi aperçu d'une chose qui était terrible, c'est que au sein de la population qui est margée à ce dispositif, le plan local d'insertion par l'emploi, cette population, on a vu augmenter la population des seniors et des femmes d'une manière absolument vertigineuse. C'est-à-dire que entre 2010 et 2012, 47% d'augmentation des seniors. Alors, je ne reviens pas sur les causes, vous les connaissez tous, mais on s'est retrouvé dans une situation où avant, on s'occupait d'une population qui était à peu près distribuée hein, au niveau de la pyramide des âges, à une situation où, de plus en plus, la population des seniors, des grands seniors, hein, des gens qui ont plus de 50 ans, commençait à augmenter de manière très importante. Et donc l'idée, c'était de dire il faut absolument qu'on mette en place des actions spécifiques pour pouvoir suivre ces gens-là et leur permettre enfin, une action spécifique. On ne suit pas un jeune de 30 ans comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui ça fait 5 ans qu'il est au chômage et puis il se retrouve dans une situation très compliquée. Et donc on a mis en place trois ateliers. Ce sont trois ateliers qui permettent à ces gens-là, un, d'abord de se retrouver, et deuxièmement, de leur dire qu'après, généralement, quand on a travaillé 10 ans, puis qu'on est resté au chômage 5 ans, on n'a plus beaucoup conscience des compétences qu'on a acquises. Et donc l'idée, en fait, de ces ateliers, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont acquis une compétence, que cette compétence, ils l'ont toujours, et que c'est avec cette compétence-là qu'ils doivent aller répondre à la demande de compétences des employeurs. Et ça a super bien marché l'année dernière. On a fait ce qu'on appelle un pass senior. On a travaillé avec 28 personnes. Sur les 28 personnes, il y en a 11 qui ont trouvé un CDI en un an. Et aujourd'hui, on met en place aussi un autre pass, qui est le pass au féminin, parce que la population féminine commence aussi à augmenter. Et ce sont des ateliers où on leur fait faire du théâtre, on leur fait lire des livres, on les fait discuter entre eux, aborder des sujets de société, simuler des entretiens, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, pour le plan local d'insertion pour l'emploi, depuis 2008, vous avez vu, on a suivi 1700 personnes. On a eu à peu près 380 sorties positives. Et pour les clauses d'insertion, c'est quelque chose aussi qui est assez important. L'innovation, juste j'ai oublié de dire quelque chose pour le plan local. En fait, on a fait signer une convention entre, juste, je ne sais plus qui a posé la question, est-ce que vous travaillez avec la région ? On a fait signer une convention qui réunit le Conseil général, l'État, Grand Poitiers, le PLI et la région. Et c'est une convention où le Conseil général et Pôle emploi, deviennent prescripteurs au PLI, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des gens qui ne peuvent plus rester dans le circuit de Pôle emploi ou dans le circuit du RSA, donc ils nous le prescrivent au PLI de manière à ce qu'on puisse les suivre de manière renforcée et ils contribuent bien entendu au financement de ce dispositif. Ce dispositif, c'est à peu près 4 millions d'euros de fonds sociaux européens et 4,4 millions sur tous ces gens-là qui ont été conventionnés, hein, Pôle emploi, le Conseil général, la communauté d'agglomération, etc., plus les fonds propres des structures d'insertion avec lesquelles on travaille. Parce que les structures d'insertion avec lesquelles vous travaillez, vous leur donnez un petit peu de sous, mais eux aussi, ils doivent en mettre un petit peu. Comme pour les fonds sociaux européens, on donne, le fonds social nous donne 1 euro quand on donne 1 euro. J'ai fini. Concernant les clauses d'insertion, en fait, les clauses d'insertion, c'est quelque chose qui a toujours existé jusqu'à présent, sauf que ça n'était pas conventionné. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passait ? Lorsqu'il y avait une collectivité qui émettait un appel à projet pour un chantier, il pouvait mettre dans cet appel à projet, dans le cahier des charges, il pouvait dire « Nous, on souhaite que ce projet, s'il est réalisé par vous, vous allez dédier 5% de l'horaire total de travail, 5% à l'insertion. C'est-à-dire que vous allez travailler avec des structures d'insertion qui, par exemple, je ne sais pas, moi, nous, on lance un chantier, je ne sais pas, pour retaper un mur ou refaire un parc, etc. Et la société qui va être choisie pour faire ça, enfin, l'entreprise qui va être choisie pour faire ça, elle est obligée d'utiliser 5% de son temps qu'elle va donner à des structures d'insertion. Et ces structures d'insertion vont arriver avec des gens du PLI, de la MLI, etc., et qui vont, de la mission locale, et qui vont travailler. Alors avant, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque appel d'offres, on introduisait une clause sociale. Ce qu'on a fait, nous, depuis 2 ans, c'est qu'on a décidé de conventionner. On a fait conventionner, on est en train de finir le conventionnement avec toutes les communes. C'est-à-dire on a commencé par Vuxerolles, ensuite on est en train de travailler avec Saint-Benoît, Migné-aux-Anses, Croutel, etc. On leur fait signer une convention qui dit que tous les projets, tous les appels à projets qu'ils vont passer doivent inclure obligatoirement les 5%. Et normalement, c'est nous qui nous chargeons de la mise... de la traduction opérationnelle de ces clauses d'insertion. On a conventionné aussi avec des établissements. On a conventionné avec le CHU, on a conventionné avec la SNCF, avec RFF, etc. Et on a conventionné aussi avec d'autres entreprises, ce sont des donneurs d'ordre comme GRDF, etc. On a aussi conventionné avec eux. Donc en fait, aujourd'hui, depuis 2011, depuis qu'on a lancé ces conventionnements, il y a 13 maîtres d'ouvrage qui sont suivis par le dispositif. 85 marchés ont inclus les clauses sociales. Donc on a une croissance d'à peu près 46%. Et en 2012, il y a 60 nouvelles entreprises qui ont été accompagnées, 53 marchés. Et on est passé à 60 000 heures de clauses sociales, avec à peu près 210 bénéficiaires, donc soit qui émargent du PLI ou du RSA ou émanant de structures d'insertion. Voilà, je vous remercie.
Merci Monsieur Belksir. On va passer la parole à Claude Poquet qui va nous proposer quelques images et puis on va l'écouter.
Bonjour. Mon intervention est un petit peu différente de toutes celles précédentes. Voilà, donc, je m'appelle Claude Poquet. Je m'appelle Claude Poquet, je suis photographe. J'habite la région depuis un petit moment. Et puis, je travaille, pour me présenter rapidement, je suis photographe diverses choses, des paysages, des gens. Je travaille pour l'actualité Poitou-Charentes, ici, qui est un magazine qu'on connaît bien. Pour d'autres rédactions, comme Libération, Le Monde. Il se trouve que, par hasard, c'est pas fait exprès, il y a 4 images que j'ai faites qui sont accrochées au mur, sur un projet que j'ai mis de côté, qui travaille sur le paysage de l'énergie. Voilà. Et donc pourquoi je suis là aujourd'hui ? Donc j'avais rencontré Jacky Donnieu il n'y a pas longtemps et je trouvais intéressant que pour le programme, les rencontres qu'il fait sur le territoire, c'est intéressant de savoir qu'il y a un courant de la photographie qui s'appelle la photographie de territoire. Voilà. Donc je revendique un petit peu l'appartenance. Donc je lui ai proposé de venir parler un petit peu de cette photographie-là. Moi je ne vais pas faire une conférence sur la photographie de territoire, je vais juste faire une courte présentation de l'historique. Il se trouve aussi que historiquement, pratiquement l'origine de la photographie de paysage est également liée aussi à l'origine de la notion de territoire, découverte du territoire aux États-Unis. Voilà, donc j'ai mis une image comme ça qui date de 1866, qui est un petit peu une photographie qui résume bien la problématique de la photographie de territoire. C'est-à-dire qu'on a le paysage, on a une traversée, une ligne très forte devant nous qui est une traversée du paysage. Pourquoi ? Parce que c'est des photographes qui accompagnaient la construction du chemin de fer aux États-Unis, donc à la fin du 19e siècle, enfin mi-19e siècle. Et donc, ces photographes, au départ, qui étaient des photographes de techniciens, si vous voulez, un courant de photographie s'est développé autour d'eux. Donc ce photographe qui est un des plus célèbres de cette catégorie s'appelle Carlton Watkins. Voilà, donc il a travaillé sur autour de la rivière Columbia dans l'Oregon. Voilà, j'ai oublié de mettre l'Oregon. Et il a donc longtemps travaillé donc avec des appareils grand format, voire même des appareils stéréoscopiques comme ici là, voilà, puisqu'on mettait ça dans des petites visionneuses. Voilà. Et, ou alors, bien sûr, on voit à chaque fois avec lui le paysage, la traversée du paysage, l'itinéraire de la ligne de chemin de fer, hein, ici, voilà, etc. Voilà, voilà. Encore une fois, voilà. Donc voilà. Et bien entendu, la réalité de la ligne de chemin de fer existe toujours. Ça, c'est un photographe plus récent qui a fait cette image. Et vous savez qu'il y a il y a toute une organisation qui reconduit des paysages anciens des paysages anciens du territoire. Ce photographe, je ne sais pas s'il en fait partie, mais en France, il y a un observatoire du territoire ou du paysage, j'ai un petit peu oublié le nom, qui est chargé de reconduire des cadrages identiques. Depuis les premières images qu'on connaît du paysage jusqu'à des photographies récentes. Dans la région, il y a un photographe qui existe, qu'on connaît bien, qui travaille aussi pour l'actualité Poitou-Charentes, qui s'appelle Thierry Girard, qui fait lui-même une reconduction de ce paysage dans les Vosges. Donc régulièrement, je crois une fois tous les deux ans, il va faire une mission de photographie là-bas. Voilà. Donc si vous voulez, moi je me suis un petit peu... Je suis arrivé un peu dans ces traces, et puis... À l'origine, j'étais un photographe de reportage, un photographe de rue, et je me suis intéressé à la photographie de paysage par le biais de cette traversée du paysage. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est mes premiers travaux sur le paysage que j'ai fait à partir de 92, qui était pour moi pas de regarder le territoire, le paysage devant moi, comme faisaient les photographes qui étaient sur les machines de chantier, qui avançaient en même temps que la voie de chemin de fer. Mais c'était de regarder latéralement, d'essayer de donner l'idée comme ça d'un paysage continu. Donc moi je travaillais depuis la fenêtre du train. C'était encore une pratique de reporter, on va dire. Vous voyez, je me souciais guère de ligne droite, de frontalité. J'étais plutôt dans le flou, qui était un peu ma pratique passé de photographe de rue. Donc pour moi, aucune importance que l'image soit basculée. Ce qui m'intéressait, c'est de jouer avec les formes, des décroisements d'un poteau électrique, d'une route, d'une bordure de pont. Voilà. Donc si vous voulez, ça c'est mon premier travail sur le paysage. Donc on remarquera, voilà, donc petit format, 24-36, à travers la vitre de train, du train. Voilà. Après, je me suis intéressé à un autre. C'est vraiment une. Moi, je suis originaire de la banlieue parisienne, donc j'ai vraiment travaillé beaucoup après sur la banlieue parisienne, où là, je marchais à pied le long des voies de chemin de fer. Donc là, j'étais déjà dans des cadrages plus tranquilles, quoique, pour montrer comment fonctionnait le paysage urbain de cette époque-là. Voilà. Alors, c'est un travail qui est fait, c'est important, parce que là, on aborde un petit peu des choses techniques, on va l'aborder un peu. C'est un travail qui est fait au 24-36. Donc le 24-36, pour les gens qui se rappellent de l'époque de l'argentique, c'est ces petits boîtiers avec des petites pellicules. Bon. Et on s'aperçoit, par exemple, que sur les images que je monte, il y a déjà moins de qualité photographique que les images de 1866 qui étaient faites avec des appareils de grand format, avec des temps de pose très longs, sur des trépieds, etc. Bon. je vais vite comprendre que la vraie photographie de paysage, enfin la vraie photographie, c'est pas de la fausse, mais je vais vite comprendre que la photographie de paysage qui m'intéresse, c'est de me poser, de mettre un trépied, d'augmenter le format de l'appareil photo. Et après, plus tard, donc en 95, j'ai abordé un travail le long de la route nationale. Il y a très peu d'images entre Dunkerque et Hendaye. C'est un itinéraire qui m'intéressait à plusieurs reprises dans ma vie de photographe. Donc j'ai suivi avec un écrivain, Kenneth Watt, j'ai suivi la bordure de route. Voilà. Donc j'ai juste une petite double page que j'ai rajoutée ici, qui sont donc d'ailleurs des endroits qui ne sont pas très loin d'ici, hein, qui sont les Maisons Blanches et 50-60 km de Poitiers, où là, on voit bien deux paysages, à gauche avant, à droite après. On pourrait penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire à gauche c'est l'ancienne route nationale et à droite, à l'emplacement du camion qu'on voit sur la photo de gauche, à droite on voit bien ici qu'il y a la route nationale, la déviation, et que l'ancienne route nationale a été recouverte de terre, et c'est tout, hein. On m'a bien dit, donc ça s'appelle j'ai oublié le nom, bon ça a un nom particulier cette route abandonnée, qu'on n'enlève pas le bitume, on rajoute un mètre de terre et on... Voilà. Tu te rappelles pas, Jean-Luc? Et d'ailleurs, Jean-Luc Terradios m'avait demandé pour l'actualité, mais je ne l'ai pas, une troisième vue qui datait de 5 ans plus tard du même cadrage. Voilà. Bien maintenant, on ne peut plus reconnaître ce paysage, sauf sur le pont, parce que les arbres ont énormément poussé. Voilà. Donc là, c'est un petit peu autre chose que je vous montre. Donc, plus tard, je continue à travailler sur l'itinérance, sur l'itinéraire, en noir et blanc, et plutôt que de vous les présenter, voilà, donc ça c'est un livre que j'ai fait en 95 avec l'aide de l'Université de Poitiers sur l'itinéraire de déportation de ma mère qui a été déportée, qui est toujours vivante, qui a 92 ans, et elle est allée à Auschwitz, elle est allée à Mauthausen et Birkenau. Donc pendant très longtemps, j'ai cherché comment je pourrais traduire un petit peu sa déportation, plus de 2 ans en déportation. Et donc j'ai fait comme ça tout un travail panoramique sur la déportation. C'est mon unique travail en panoramique parce que j'ai été... Bon, pardonnez-moi, on rate les pages, les doubles pages, mais je n'étais pas équipé pour. Finalement, le panoramique nous entraîne dans un cadrage qui est très, très... on est restreint, on est vraiment contraint par le cadrage. Et donc, une fois que ce travail était terminé, j'ai arrêté avec le panoramique. Voilà. Donc, c'est une exposition qu'on risque de revoir puisque... Voilà, ça, c'est un portrait de ma mère à l'époque. On va voir un portrait de ma mère au moment de faire le bouquin. Et ça, c'est une expo qui devrait être montrée bientôt, puisqu'elle a fait partie d'un convoi. Voilà, j'aurais pu commencer par... Elle a fait partie du convoi dans lequel il y avait Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbault, qui ont été recrutées, j'oserais dire, qui ont été arrêtées partout en France parce qu'elles étaient déportées résistantes. C'est l'unique convoi de femmes françaises déportées résistantes. C'est un mystère. On ne sait pas pourquoi il n'y en a pas eu deux, pas d'autres. Voilà. Et donc cette année, c'est l'année Charlotte Delbault. Donc l'an prochain, normalement, ce travail devrait être montré à Poitiers. Donc Charlotte Delbault, qui était avant de partir en déportation, qui était la secrétaire de Louis Jouvet, et qui, en retour, a fait de nombreux écrits sur la déportation et sur le théâtre. Et c'est un écrivain méconnu. Voilà. Donc ça c'est ce travail que je voulais vous montrer. Donc ça sera pour après. Voilà. Donc si vous voulez, qu'on voit vers l'est. Donc en 80, je l'ai fait en 95. Il est sorti en 2002 parce que pour moi c'était difficile de le montrer. Il était difficile de produire le livre et c'est Dominique Monconduit qui était chargé de l'action culturelle à la fac de Poitiers qui a coédité l'ouvrage avec Le Temps qu'il fait et qui a produit l'exposition. Voilà. Donc si vous voulez, après je commençais à changer de format puisqu'en fait mon travail, il y a des photographes qui ont commencé par l'inverse, travailler en grand format, moi j'ai commencé par travailler en petit format et après j'ai voulu travailler à la chambre. Donc la chambre commence à se rapprocher des formats historiques de grands appareils photo qu'utilisaient les anciens, enfin qui sont toujours utilisés, attention, c'est pas de la photographie qui n'existe plus. Et la question de la couleur aussi, voilà. La couleur est du noir et blanc, puisque pour l'instant, on est en noir et blanc, enfin, dans ma pratique, voilà. Donc, je suis allé en Inde fin des années 90, et j'ai, pour un travail autour du sanskrit, autour des pandites, des récitants, des chercheurs en sanskrit qui continuaient à réciter des textes hindouistes. Et voilà. Et donc, je me suis posé la question. J'ai travaillé, c'était une période où je voulais commencer à franchir, enfin à quitter le noir et blanc, donc j'ai vraiment pratiquement tout doublé en Inde. Quand on dit doublé, c'est presque doublé, c'est-à-dire que les gens sont pratiquement, c'est des gens qui restent stables, enfin immobiles, mais on voit vraiment qu'on pourrait presque mettre un filtre noir et blanc sur la photo couleur, mais c'est pas de la triche, c'est vraiment un plan film couleur, un plan film noir et blanc, voilà. Plus tard, je le mets là parce que je ne savais pas trop le mettre, mais enfin, ça s'est passé en 2005. C'est juste des petites images, c'est trois images que je vous montre qui sont des extraits de petits films que j'ai faits sur des danseurs, enfin des films photographiques, c'est-à-dire ce sont des multi-shoots sur des petits solos de danseurs autour d'un lieu urbain. Voilà, parce que la partie urbaine, donc on a abandonné, enfin on n'abandonne pas le territoire, mais on s'intéresse au corps de la personne dans le corps urbain, c'est ça qui m'intéressait, donc le danseur, et j'ai fait intervenir donc des gens comme ça qui faisaient des petits solos en public ou dans la ville de Poitiers. Voilà. Un travail plus tard qui est donc maintenant j'ai entièrement basculé en couleur à partir de 2004. Et j'ai une commande de la. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un photographe, en fait, maintenant, pour qu'un photographe puisse vivre de sa pratique, je vous ai parlé de la presse, il y a les expositions, mais les expositions, elles sont parfois produites par nous-mêmes, mais souvent commandées par des institutions. Donc là, c'était une commande à Thouars de l'école d'art de Thouars, de la chapelle Jeanne d'Arc, qui m'a demandé une résidence. Donc ça, il avait un programme, Jean-Luc Dorchy, qui dirige maintenant les Beaux-Arts à Poitiers avaient un programme de résidence. Il a fait intervenir beaucoup de plasticiens, dont quelques photographes, Marc Deneyer, Thierry Girard, etc. Et donc, j'ai pas choisi d'ailleurs, non, il m'a dit qu'est-ce que tu penserais de faire un travail sur le sport. J'ai passé un petit moment où j'allais comme ça dans des endroits de sportifs pour montrer alors un lycée, une piscine, etc. Voilà. Donc ça nous montre aussi une région, une ville qu'on connaît, mais qui est une petite ville, voilà, qui est avec son animation, sans chichi, voilà, il y a les rallonges sous les roues du camion, c'est un camion, un transporteur routier qui prête son camion, le courrier de l'Ouest, le Crédit Mutuel, tout le monde met ses logos, enfin voilà comment fonctionne le sport en région, vous allez voir, il y a des choses. Très drôle, voilà, bon, des vétérans, voilà, du football, de l'équitation, enfin pardon, des courses hippiques. Voilà. La fête du football et du melon, très célèbre à Thouars, hein, voilà, voilà. Où là, je ne sais pas si on va pouvoir le lire, mais non, on ne va pas le lire, mais ici, il y a les prix, là, ici, un sandwich égale 1 euro, 2 sandwichs, enfin bon, pour éviter de faire les calculs, tout est, voilà. Là, il paraît qu'elle est fermée, une très belle piscine, d'été, voilà. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Un équipement tout neuf de tennis, voilà, voilà. Le responsable de la communauté urbaine, qui est le responsable d'achat des cordages. Enfin, il ne le fait pas que ça, mais voilà, il s'est présenté comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une façon d'aborder l'institution sportive dans la région. Donc on se rapproche du territoire social, d'un secteur d'un territoire. Quoi, voilà. 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 Donc là, on est encore dans une. Donc ça, c'est un autre ouvrage que je vous montre en vidéo. Voilà, qui a encore été aidé par l'Université de Poitiers, coproduit par-ci au château de Waron, avec un beau texte de Christian Cojol. Donc là, c'est un travail sur le. J'ai repris mon bâton de pèlerin entre, entre Dunkerque et Hendaye, mais là, j'ai longé les côtes plutôt que de prendre la ligne droite par la route nationale. Et donc là, je montre un petit peu mon paysage, enfin, le paysage qui est... J'ai fait du canotage, je suis allé vraiment de port en port pendant 5 ans, j'ai vraiment fait énormément de kilomètres, mais je montre comme ça une vision périurbaine. Donc là, ça, tout à l'heure, souvent on parle de ce mot-là, mais on parlait de territoire, enfin on parle de territoire, mais on parle aussi beaucoup de photographies comme ça, périurbaines, de zones qui sont comme ça, pas terminées, qui seront peut-être jamais terminées. On ne sait pas si c'est là vraiment la couleur définitive des panneaux. Bon, c'est un petit peu sombre là-bas. Voilà. La personne de Royan est partie, c'était une vue de... J'ai commencé ce travail à Royan, voilà, donc un hôtel très chic de Royan qui m'a intéressé. Voilà. Et voilà, ce manège qui était... Mes parents habitaient Royan, donc c'est comme ça que j'ai commencé ce travail, donc montrer là, une vision de Royan l'hiver. Voilà, voilà. Oh, c'est des ouvrages qui sont en commande, sur commande, qui sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Bon, alors, il paraît qu'il faut que j'aille assez vite. Alors, ça, c'est une image intéressante qui est l'arrière-salle d'un café à Marcilly. C'est le lieu de passage fréquent de Simenon. Un très beau trompe-l'œil entre le... On ne voit pas bien sûr, parce qu'il y a ma main, mais voilà, des choses peintes, des choses réelles. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça, c'est ce livre que j'ai fait sur le... Voilà. Alors, donc, il faut bientôt que je conclue. Alors, avant de conclure, parce que je vais quand même vous montrer ce film, parce que ça, c'est un... Je vous ai dit que c'est un travail à la chambre photographique. Donc là, on va pas voir ça. C'est un travail sur l'éclatement de la bulle immobilière en Espagne. Mais je vais vous montrer. Voilà. Donc, en fait, donc je travaillais, parce que depuis 2 ans, j'ai un peu abandonné avec une chambre argentique. C'est du matériel très récent, hein. Faut pas penser que c'est du travail, du matériel ancien, des plans fines qu'on trouve encore avec un peu de mal, voilà. Mais si vous voulez, je vais quand même vous montrer quand même l'intérêt de cette chambre. Qui, donc, voilà, ici on a un dépolier. Vous imaginez, on met un chiffon noir sur la chambre, hein, sur le corps de l'appareil. On met les plans fines par ici. Une fois qu'on a visé dans ce viseur, qui est quand même un plan fine, c'est 10 par 12 cm, voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. C'est ce petit film qu'on va regarder. J'ai tourné ça chez moi il n'y a pas longtemps. Vous verrez que c'est une photo. Alors, donc, on voit à l'envers, hein, puisque la visée de tout appareil photo non redressé, c'est une visée à l'envers. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'on a un corps avant qui tient l'objectif, qui est mobile. Voilà. Sur un appareil normal, le corps avant, l'objectif est fixe. Voilà. Et voilà pourquoi on fait des photos avec cet appareil photo. Voilà. Parce que je vais faire un arrêt. Voilà. Quand on a devant nous une languette qui fait ou qui fait monter ou qui fait descendre l'objectif et qui nous permet, voilà, par exemple, si j'étais cadré, voilà, avec l'horizon au milieu comme un appareil normal, voilà ce qu'on aurait, voilà. Bon. Ce qui est un premier plan flou, mais ça c'est pas grave parce que j'ai pas fait la mise au point. Une maison, c'est ma maison qui est bizarrement bon avec un tilleul, voilà. Bon. Mais quand on commence à décentrer vers le ciel, on commence à voir qu'il y a un équilibre des masses qui se fait. On s'aperçoit qu'il faut un petit peu au-dessus de l'arbre, un petit peu de matière pour laisser respirer l'arbre, qui est souvent la matière qui est au-dessus de l'objet ici, elle va être souvent équivalente à celle qui est en dessous de l'objet, enfin peu importe. Et donc là, si vous voulez, quand vous avez le viseur qui est à l'envers, il y a un petit peu une perte des repères. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plus que des masses. Et c'est pas une histoire de règles de composition, mais on voit comment fonctionnent les masses, dans quelle tension anime la photographie, et c'est là qu'on dit voilà, on bloque l'appareil, on verrouille, et on se dit c'est là qu'on va faire la photo, voilà. Bon. Et ça, c'est pour ça qu'on fait un appareil. Et j'ai appelé ce petit film décentrement parce que ces appareils photos ont existé surtout pour ça. Au départ, c'était des appareils techniques qui permettaient d'éviter, quand on photographie un immeuble, d'avoir des déformations, etc. Mais voilà l'intérêt de cet appareil. Surtout, vous imaginez, bon là, on voit bien que c'est quand même très lumineux, on est dans une sorte de, d'écran qui fait quand même 12 cm de large. On est vraiment, et il y a des chambres qui sont encore bien plus grandes. Voilà. Donc, je me suis amusé à faire la photo après. Mais bon, pardon, c'est celle-là, mais bon, qui a quand même beaucoup moins d'intérêt parce que c'était quand même pas une photo, une grande photo. Voilà. Bon. Et puis, il me reste une minute.
Vas-y.
Voilà, c'est un travail sur le faux, sur le salon, salon de l'armement, salon de l'aviation, un travail qui m'a intéressé pendant plusieurs années. Voilà, donc des balles qui s'appelaient P, Pénétrator, voilà, donc, voilà, qui sont présentées comme des rouges à lèvres, des cibles pour tirer. Voyez, on voit bien. Voilà, vous remarquerez l'habillage, voilà. Et puis après, j'ai travaillé aussi sur le salon de l'érotisme. Enfin bon, ça c'est tout un dommage que je ne puisse pas vous montrer ça. Une résidence que j'ai faite d'une année sur le Marais Poitevin, qui était aussi un travail vraiment sur le territoire. Voilà, donc des fermes ordinaires. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le paysage ordinaire. J'essaye de faire des photos qui ne sont pas ordinaires, mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est là, c'est une ferme. En plus, c'est amarrant. Mon beau-père a été prof de ce fermier quand il était au collège. Donc, vous voyez, tout ça, il y a des histoires qui... Voilà. Ce sont des images qui ne plaisent pas forcément aux aménageurs. Vous voyez cette image, voilà. Bon, elle n'aime pas le Marais Poitevin, le parc du Marais Poitevin qui m'a commandé l'image. Voilà. Oh, ben, je vais vous montrer une image qu'on ne va pas mettre. C'est, voilà, qui ne le mettait jamais. Ça, c'est une rencontre hein, avec un paysage, la neige qui n'a pas fondu, parce que ce n'est plus du bitume, mais c'est du calcaire et de la terre, ouais, des cailloux, et la neige ne fond pas. Donc là, quand on est devant un paysage comme ça, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est une image qui m'a intéressé. Moi-même, j'ai dérapé, mais cette image, elle était censurée dans toutes les expositions du Marais Poitevin. Voilà. Voilà. Ça, voilà, un aménagement de territoire, voilà, un geste architectural qui est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le montrer. Voilà. Et un travail que j'ai fait sur le De Gaulle vu par mes parents, où je suis, voilà, ma mère qui avait reçu une lettre pour être invitée à aller à Notre-Dame, cathédrale Notre-Dame à Paris, pour être... Et voilà, je l'ai présenté comme ça, vous voyez, ça c'est important. Attentat du petit Clamart, cette phrase, le petit Clamart. Moi, depuis que j'étais gamin, j'entendais cette phrase, donc je suis allé voir, voilà. Voilà. Lieu de l'attentat, zone de deuxième zone des tirs sur l'avenue de la Libération, Clamart 2009, voilà. Donc si vous voulez, moi, ma photo, mon travail était légendé sur l'actualité de l'époque. Ouais. Donc pour moi, cette photo, elle était prise en août 1962. Bien entendu, je ne cachais pas que l'image datait de 2009. Voilà. Donc encore la tombe fleurie de celui qui a tiré sur De Gaulle, un autre lieu d'attentat, une petite reconstitution dans mon jardin d'un logo de l'OS. Enfin, ça, c'est une déesse PR1 de l'Élysée. J'ai pu m'asseoir dedans. Voilà, donc De Gaulle, Pompidou, etc. Voilà. Ça, peut-être des gens se souviennent de ce petit jeu. C'est un graphiste qui a découvert par hasard que le graphisme des boîtes de vaches qui rient reproduisait la caricature de De Gaulle. Avant. Des gens qu'on ne le voit pas, hein, bien sûr, ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche. Voilà. Il y a même les étoiles de. Voilà. Je termine là-dessus. Moi, j'ai appris mon travail auprès de grands photographes américains, français, qui m'ont appris des grands photographes comme Gary Winogrand, hein, qui est un des plus grands photographes américains de la photographie de rue. Et donc, maintenant, je suis responsable d'un atelier à la fac de Poitiers de pratique qui est noté pour les étudiants. Et bien sûr, je ne montre pas mon travail, mais je montre des travaux sur le territoire. Et vous voyez, ça, c'est un enseignant, hein, Samuel Arlo. Yann Echard, pardon, voilà, c'est pas Samuel Arlo. Yann Echard, qui est donc un enseignant qui a assisté à 2 ou 3 années de mon atelier et qui a travaillé sur la ligne de démarcation la ligne de démarcation actuellement dans la Vienne. Une jeune étudiante qui m'a dit, mais moi j'ai une caravane dans mon jardin, je vais aller faire des photos, voilà. Et elle a sorti des images plastiquement magnifiques. Bon, c'est aussi une autre vision du territoire. Voilà. Et je termine sur un autre étudiant qui a bien compris le truc, qui a travaillé frontalement sur son village d'enfance près de Châteauroux. Voilà. Donc tous les ans, j'ai une vingtaine d'étudiants qui travaillent. Je termine après là-dessus. Voilà. Et un travail qui est en cours, que je commence sur des familles de Poitiers. Voilà. Donc voilà, c'est un travail. J'ai eu une bourse pour travailler sur des familles qui sont légèrement mise en scène. Je demande juste qu'on ne regarde pas l'appareil photo. Voilà. Donc je continue ce travail. Voilà. Voilà. Donc voilà. J'ai terminé précipitamment. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci Claude Poquet. Je suis moi assez content qu'on termine par ce contraste entre une vision à la fois politique et j'allais dire scientifique de l'innovation et puis ensuite la proposition artistique, si je puis dire, et culturelle de Claude Poquet qui nous permet peut-être de peut-être pas de résumer, et en tout cas de rappeler les différents aspects de la journée. Je vais maintenant passer la parole à ma voisine qui va nous proposer une vision, le regard d'une élue sur ces questions de créativité dans les territoires et qui peut-être ne va pas nous proposer un bilan de notre journée. Je trouve que ce serait non seulement compliqué, presque une mission, j'allais dire suicide, mais plutôt, oui, la vision de l'élu et de la praticienne qu'elle est sur ces questions et sur la façon dont elle peut être amenée à les arbitrer sur son territoire.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, voilà, j'ai un rôle ingrat parce qu'effectivement, je ne souhaite pas faire un bilan de cette journée parce que je crois que ça a vraiment été une journée très riche et j'en profite pour remercier vraiment les organisateurs pour la programmation de cette journée qui a été fort riche. Alors donc, voilà, moi je vais apporter juste mon regard, un peu une lecture de ce sujet au travers mon expérience. Donc je suis maire d'une commune de 1000 habitants, commune rurale, donc Mazerongatine, au centre du département des Deux-Sèvres. Alors c'est vrai que ce matin, bon, moi je dirais, en tout cas moi je suis plus une faiseuse qu'une diseuse, et j'avoue que des journées comme celle-là sont très riches pour moi parce qu'on met des mots et on intellectualise, voilà, peut-être des choses que nous faisons, on va dire, peut-être comme ça, sans le savoir, sans, comme Monsieur Jourdain. Et voilà, et donc c'est très important, enfin, de mon point de vue, voilà, de pouvoir, et puis en plus en parler, échanger, sans, voilà, je me tourne vers mon collègue, Monsieur Fournier, mes collègues ici, d'échanger et de se dire les choses et de dire que ben, tout n'est pas facile, que bien parfois on a des doutes, et puis, mais voilà, mais il faut qu'on soit des élus pugnaces pour arriver à faire avancer nos territoires. Hein, voilà, en tout cas, je vous félicite pour votre expérience. Je crois qu'on a tous été très... voilà, il y a des cas d'école, et je crois que vous en faites partie, et pour nous, c'est intéressant. Voilà, donc, juste, voilà, moi, ce matin, le lien entre innovation et géographique et le territoire et la science sociale, hein, ça, c'est donc la recherche, la formation, l'action, et donc, c'est très important. Notamment également, on a beaucoup parlé de démarches participatives et culturelles. Et donc, pour moi, ça a été dit aussi ce matin, je pense que pour qu'on enclenche, nous, ça a été notre cas, moi, mon équipe et tous nos habitants, il faut qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un bouleversement, un changement. Et nous... ça a été dit aussi ce matin. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a subi, c'est pas que subir, parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est un atout, une déviation d'un bourg où on avait entre 8 et 10 000 habitants, véhicules par jour, et on a donc une grande balafre, une grande plaie qui s'est faite dans notre paysage et donc qui nous a bouleversés. Et donc je pense que c'est ce qui nous a, en tout cas, propulsé, engagé vers quelque chose de qui on voulait être bouleversé aussi, on voulait être surpris. Et donc c'est là où aussi je remercie Élise Macaire, donc qui parle de bruit du frigo, puisque nous avons lancé une opération des ateliers d'urbanisme utopique, donc que nous avons confié au collectif Bruit du frigo, mais cela a été souligné aussi, toujours en lien avec, bien évidemment, un cabinet d'architectes, et ça a été souligné, donc on ne travaille pas seul. D'ailleurs, nous, enfin voilà, je passe les choses parce qu'on a travaillé beaucoup avec nos partenaires pour arriver sur cette étude de requalification et que l'on puisse mandater ce cabinet qui était le cabinet Traverse de Bordeaux et qui a travaillé en lien avec le collectif Bruit du frigo. Et ils ont permis de, oui, on peut dire comme ça, de libérer la parole des habitants et également proposer des idées novatrices pour le projet donc, de revitalisation de notre bourg. En transversalité et en lien les uns avec les autres. Alors, il a été question beaucoup donc, de démocratie culturelle et transformation du cadre de vie, hein, ce que disait aussi Élise Macaire. Et il est vrai que nous, suite à une analyse de besoins sociaux, hein, dans nos CCS, normalement, on doit, hein, c'est obligatoire de faire une analyse de besoins sociaux, mais en tout cas, c'est important de prendre la température sociale, économique et sociale de notre territoire. Et nous, les résultats ont montré combien la mobilisation de toutes les forces socio-culturelles au service d'un projet de vie commun était une priorité vitale. Donc on a bien compris que c'est sur rénover notre bourg, réinventer Mazières, puisqu'il s'agissait de ça, bien évidemment ça allait se faire dans un cadre tout à fait global. Et donc, fort de cette expérience hein, avec Bruit du frigo et du résultat hein, de cette étude, donc, qui nous a bousculés, mais qui ensuite nous avons enclenché une étude de programmation sur nos bâtiments communaux, la salle socio-éducative, la mairie, l'école de musique, la bibliothèque. Et là aussi, au cabinet de programmiste, nous y avons adjoint une spécialiste de l'ingénierie socio-culturelle qui est Fazette Bordage et qui a fait un gros travail sur notre territoire. Et en fait, le travail de fond qui a été mené auprès des associations et de tous les acteurs économiques de notre territoire, eh bien, a montré que bien évidemment, au-delà, l'idée, c'était de moderniser nos locaux, de les remettre en accessibilité, puisque là aussi, les normes, on en crèvera. On ne l'a pas dit, ça, encore. Comme ça, il faut que je le dise, parce que... au-delà, en fait, ce travail qui était de restructuration des bâtiments, eh bien, on est arrivé, en fait, sur... une conception d'un projet de fédération et de coopération des actions communes au service de la population. Et en fait, la question de l'immobilier, eh bien, elle a été remise à plus tard. Donc, tout cela pour dire que un projet, et cela a été beaucoup dit, hein, il doit être mené en globalité, hein, d'une façon transversale, globale, et ça, c'est très important, et à plusieurs titres, et cela a été souligné, notamment pour nous, et je pense ceux qui en ont fait l'expérience, ça a été suffisamment dit aujourd'hui, que l'appel d'intervenants du monde de l'art et de la culture, c'est vraiment avec donc leurs méthodes qui leur sont propres, hein, avec où ils mobilisent, ils nous ont dynamisés, ils nous ont mobilisé des énergies qui pouvaient être plus ou moins endormies, en tout cas pour certains de nous, et ils invitent à explorer des solutions inventives, hein, on l'a vu, et à les rendre possibles. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et là, on est vraiment dans l'innovance, si on veut. Mais en tout cas, le socio-culturel apporte vraiment beaucoup de choses. Et aussi, ça a été beaucoup souligné, je le redis, parce que je pense que ça fait aussi un petit peu des choses, des éléments importants du point de vue de l'élu, c'est l'appui de la somme des conseils des partenaires et des services des partenaires apportés à nous, les élus. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille les chercher. Ça, c'est évident. Hein. C'est vrai que si on vit tout seul, là, dans notre coin, en disant on va faire ceci, on va faire cela, il faut vraiment aller à la pêche, aller dans des espaces décisionnels. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment... c'est très, très important. Et c'est tous ces partenaires techniques hein, que nous... que j'appelle comme ça, ils nous permettent En tout cas, nous, ils nous ont bien recadré sur l'impératif donc, d'une vision globale transversale, je l'ai dit, mais c'est très important, pluridisciplinaire et propre à fédérer des opérations engagées donc, sur un développement local de nos développements. Donc, nous, en tout cas, ce projet, et moi, je pense que ça a été vraiment souligné tout au cours de la journée, lorsqu'on parle d'aménagement de territoire, lorsque l'on parle de projet global, d'urbanisme, etc., il est question toujours de préoccupations sociales, culturelles, environnementales, d'urbanisme, bien évidemment. Ça, ça paraît tout à fait important. Alors, aussi, donc moi, je souligne l'importance de résidences d'artistes, en tout cas nous, qui interviennent, et sur, où nous faisons intervenir sur, nous inaugurons notre première réalisation suite à toute l'étude qui avait été enclenchée, dont je vous ai parlé, donc l'inauguration d'une rue. Eh bien, nous avons aujourd'hui une résidence d'artistes sur 2 ans, et je voulais faire le parallèle avec, par exemple, une résidence qui vient, comme est venue, Bruit du frigo et d'autres, mais ce sont des résidences un peu éphémères. Ils nous apportent des choses, ils nous donnent des... Mais lorsqu'ils sont partis, que fait-on de ça? Voilà, ça, c'est des choses aussi à dire. Et ça a été souligné aussi ce matin qu'à un moment donné, eh bien... Il faut accepter de se poser, il faut accepter de faire une relecture un petit peu des choses qui ont été faites et de faire des bilans. Ça, c'est très, très important. Et donc là, nous, on fait un petit peu le parallèle. Donc, c'est vrai que nous, on a été un petit peu... ça a été un petit peu difficile après l'étude parce qu'il fallait passer... Parce que les études aussi, on nous le dit assez, ça va, ça suffit, il faut qu'on passe à l'action et aux réalisations. Donc, c'est bien sûr ce qu'on a fait. Et on a bien rebondi, je l'avoue, grâce maintenant à des artistes qui sont venus s'inviter chez nous. Et ça fait aussi plaisir. Ça montre qu'on a une reconnaissance et peut-être une légitimité dans nos démarches. Il faut savoir aussi que les artistes, ils avaient plusieurs lieux de résidence et nous, ils sont venus dire, eh bien finalement, c'est Mazières, on veut venir. Mazières, nous, ben, pourtant, nous, voilà, c'est la campagne, c'est le milieu rural. Il y avait Rouillac qui était sollicité, enfin, il y avait quand même des lieux accueillants et tout. Ben non, c'était Mazières. Et donc, on les a depuis un an. Et là, c'est vraiment l'art au quotidien pour les habitants hein, sur notre territoire. Et je crois que ça... nous, élus, ça nous apporte vraiment un plus. Et eh bien, ils sont en capacité aussi d'innover, de nous donner une ouverture vraiment culturelle dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement pour les élus, mais pour tout le monde et pour tous les habitants. Et ça, je crois que... Voilà, peut-être ce que je voulais dire. Donc, on a bien dit communication, réseau. Merci aussi des conseils, parce que mairie conseil, donc je savais, mais voilà, de dire aussi des informations aujourd'hui qui ont été données. Et donc, moi, je parlerai. Quelqu'un m'avait dit un jour, ben, vous faites de l'urbanisme humain. Ouais, ça me plaît assez. Finalement, c'est vrai que c'est comme on disait dans notre étude de programmation, une mairie socio-culturelle. Oui, aussi, voilà. Donc, c'est beaucoup des mots qui sont intéressants. Donc, complexité, on l'a vu dans les démarches. Et puis, voilà, je pense que moi, je suis quelqu'un de convaincu que nos politiques aujourd'hui, nous n'avons plus d'argent, nous en aurons de moins en moins. Nos politiques aujourd'hui, eh bien, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on innove, il faut qu'on prenne des niches voilà, qui fassent que on fasse vivre nos territoires. Et c'est peut-être plus important. Et le bien vivre ensemble de nos territoires, c'est peut-être plus important, même si à côté, effectivement, la restauration de tel bâtiment ou tout ça, sauf les idées de M. Fournier, effectivement, mais passeront peut-être en second plan. Mais je pense que... impulser une nouvelle dynamique de transformation créative. En tout cas, nous, c'est très modestement vers ce quoi on va. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter. Merci encore pour cette journée. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est ce qu'on s'apporte mutuellement. On se nourrit mutuellement de nos expériences et aussi des personnes référentes, des chercheurs, des personnes qui nous apportent un éclairage qui est différent, mais pour nous, qui nous nourrit et en tout cas qui fait du bien. Voilà, merci.
Il y a quelques questions peut-être sur. Sinon, on va peut-être conclure. Hein. On va faire ça à deux voix. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Élise. C'est un appel à poursuite, quoi. Voilà. Merci. Bon, peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure là-dessus. Je vais peut-être commencer puis laisser ensuite Émilie, parce qu'au fond, cette journée, c'est le résultat de nos rencontres. Nous, dans un premier temps, enfin, quand je dis nous, c'est, vous savez, l'initiative a été prise au départ par l'IAT, l'A3P, qui est présent ici avec Pierre Duguay, et le collectif Ville Campagne. Ça fait déjà plusieurs années. Et c'est vrai, quand on avait posé cette question créativité et territoire, ce qui ne va pas de soi, c'est assez métaphorique. Les gens nous regardaient avec des yeux. Et c'est vrai que même les élus, au départ, étaient assez timorés. Et moi, je me félicite qu'aujourd'hui, il y ait des élus dans la salle et qu'ils aient passé la journée, qu'ils aient réfléchi, qu'ils aient même osé employer des gros mots tels que sérendipité. Parce que quand on l'emploie parfois dans des cénacles de gouvernance, comme on dit, territorial, c'est pas toujours évident. Donc là, je me félicite de ça. Et donc, c'est vrai qu'on avait eu l'idée de faire venir Michel Fournier pour une après-midi. Et il y avait un appel à la Maison des sciences de l'homme pour une journée aussi sur les politiques d'innovation faites par les deux doctorants, dont je les laisserai s'exprimer sur là-dessus et leurs conclusions. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est une étape aujourd'hui, une étape pour répondre un peu aussi à ta question. Il y en aura d'autres, grâce d'ailleurs à ce lieu, l'EMF. Hein, et Didier n'est pas là, mais je tiens quand même à le remercier, parce qu'il s'autorise à nous laisser avancer, ce qui est déjà pas mal. Et je pense que dans la créativité territoriale, c'est que les gens, les élus, la gouvernance territoriale, je dis, s'autorisent à laisser avancer les choses. Et c'est ça, je crois, surtout. Et ce qui m'intéresse là-dedans, au fond, c'est cette maïeutique de la créativité territoriale. C'est-à-dire comment on la permet, cette créativité, comment on la laisse s'avancer. Donc on a déjà eu des séances, on en a eu une aujourd'hui, on en aura d'autres. Notamment, on avait lancé l'an dernier la première journée de recherche-développement sur ces questions, où d'ailleurs un certain nombre de gens de toute la France étaient venus, puisque moi-même, je suis sollicité de temps en temps. Là, j'étais dernièrement à Toulouse. Au mois de juin, je vais à Montpellier. Là, le CJD, donc là, je m'en félicite aussi, au niveau interrégional, fait le 13 juin une rencontre et a sollicité justement une réflexion autour de ces questions. Donc je me félicite qu'un mouvement d'entrepreneurs, je veux dire, pour la première fois, ose aussi, s'autorise à poser ces questions. C'est tout à fait intéressant. Donc voilà. Donc le 24 et 25 octobre, il y aura deux jours ici consacrés entièrement à recherche et développement. Et je pense que parmi vous, il y a des chercheurs. Donc n'hésitez pas, ça nous intéresse évidemment d'aller plus loin. On a déjà des contacts avec Liège Créative. L'an dernier, on avait pris le cas de Bilbao. Et Liège Créative est une ville aujourd'hui qui, pour la Commission européenne, est reconnue. Et notamment, ils ont des outils assez intéressants qui décoiffent un peu. Notamment, ils ont un accélérateur de créativité pour étudiants. Je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas s'ils les mettent dans un cyclotron. Mais enfin, il y a une démarche là intéressante à questionner. Donc voilà pour moi. Je vous remercie tous. Je remercie aussi les élus qui ont consacré du temps aujourd'hui, évidemment. Et puis les doctorants qui ont eu cette idée aussi. Et donc, je laisse Émilie terminer.
Donc sans surprise, je voulais vous remercier aussi. Donc remercier tous ceux qui ont participé aussi bien ce matin que cet après-midi et qui nous ont offert un large panel d'exemples d'innovation dans les territoires dans divers domaines. Donc c'était vraiment très intéressant. Qui sont venus aussi d'espaces géographiques différents, parfois même assez loin. Donc je voulais juste rappeler que notre laboratoire ruralité qui avait pensé faire cette démarche avec l'IAT a prévu un numéro de notre revue donc, qui a le même nom, la revue ruralité, vous pouvez la trouver sur notre site internet. Un numéro qui serait prévu pour le mois de septembre, donc pour tous ceux qui ont fait des présentations ce matin et cet après-midi. Donc s'ils veulent nous envoyer quelques pages donc ils auront jusqu'à fin août, début septembre, disons. Ensuite, ça pourrait être donc publié dans notre revue. Donc évidemment, on va vous renvoyer tous un email pour résumer tout ça et puis pour vous redonner nos contacts. Donc voilà, encore merci.
Merci.